Hello les distordus! Si vous aimez Distorsion, vous allez sans aucun doute adorer le balado Dérive disponible sur Radio-Canada Audio. Tout comme nous, le pharmacien et vulgarisateur scientifique Olivier Bernard adore démystifier des phénomènes scientifiques et dans la troisième saison du balado Dérive, intitulé « Les secrets de la mafia médicale », Olivier étudie le parcours de ces scientifiques qui ont défendu des idées marginales ou même dangereuses et dévoile leur impact méconnu sur la société. Le tout en s'appuyant sur l'histoire incroyable du chanteur québécois Bernard Lachance, décédé du sida en 2021, maladie dont il niait l'existence. Personnellement, j'ai dévoré le balado d'un bout à l'autre en un week-end, rivé à mes écouteurs. Dérive ainsi que plusieurs autres balados pour tous les goûts, dont plusieurs balados d'enquête et de mystère, sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Téléchargez dès maintenant l'appli Radio-Canada Audio sur les plateformes Apple ou Android. Bonne écoute!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... que je souhaite refaire. Des histoires étranges de l'ère numérique. Le beat embarque live!
Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va bien parce qu'on enregistre aujourd'hui un épisode qu'on voulait faire depuis longtemps, un spécial film et série télé là, d'enquête, mais aussi de dark web, de mystère, de true crime. Donc, je pense que c'est l'occasion idéale d'en discuter ensemble puis de donner des bonnes suggestions à nos distordus.
Oui, puis... pour faire un épisode comme ça, on avait besoin d'un ou d'une spécialiste hein, de télévision, de séries, de films, mais aussi qui est passionnée par le true crime.
Oui.
Et Simone Fortin-Bélanger, si vous la connaissez peut-être sur les réseaux sociaux, Simone FB, qui est une fan de true crime.
Exactement. Donc, Simone est blogueuse, créatrice de contenu aussi pour le Journal de Montréal, pour Billy,
oui.
Pour Vrac aussi. Et comme tu l'as dit, le podcasteuse à 16h avec les obsédés. Mais aussi, moi, j'ignorais son côté fan de true crime. Donc, ça va être intéressant de discuter de ça avec elle. C'est comme son côté givré un peu, là,
oui.
à son côté plus équilibré, plus santé. Donc, ça risque d'être cool. On prend ça relax aujourd'hui. Oui. On a fait chacun nos top 3 de meilleurs films, mais aussi de nos meilleures séries.
Ouais.
Des fois, c'est des documentaires, des fois, c'est de la fiction. Donc, on va discuter de tout ça avec Simone, là, qui connaît bien aussi la culture hollywoodienne. Mais avant toute chose, Seb, on a un shout-out, une review 5 étoiles sur Apple Podcast.
Oui, qui nous provient de Annie G. Wings, 97 de la France, qui nous dit « Bonne humeur et frissons au rendez-vous de ce podcast génial. Je l'écoute tous les jours sur mes différents trajets, non sans vérifier si quelqu'un ne s'est pas caché. » Sur ma banquette arrière.
Oui, c'est très important, ça faut toujours vérifier.
Oui, c'est une vérification de routine maintenant.
Exactement. Merci à toi, Annie G. Wings. Et si vous voulez faire comme elle, vous pouvez vous rendre évidemment sur Apple Podcast, mais sur toutes les autres plateformes aussi qui donnent des reviews.
Oui.
Podcast Addict, entre autres. Même Facebook en donne.
Oui.
Et si vous achetez notre livre sur Amazon, là, allez donc nous donner une review 5 étoiles aussi sur notre livre.
Oui, s'il vous plaît. Et ça nous aide aussi à remonter dans les algorithmes,
oui.
et dans les palmarès là. Lorsque vous faites ça, donc c'est bon pour nous aussi.
On a aussi la chance de remercier pour une première fois nos abonnés Patreon. Donc, depuis quelques semaines maintenant, on a lancé notre page Patreon. Donc, on donne accès à du contenu éventuel en avance,
ouais.
Et à du contenu exclusif. On a deux forfaits, un à 2$, le Distordu, qui justement, vous allez obtenir nos épisodes réguliers en avance, nos épisodes bonus aussi, lorsqu'ils sont prêts, mais aussi des rabais sur la boutique, l'accès à un serveur Discord,
oui.
VIP, et plein d'autres d'autres trucs. On a aussi un forfait à 7$ par mois, c'est le Oui Monsieur.
Oui.
Et ce forfait-là, en fait, donne accès à du contenu encore plus exclusif. Donc, parfois, moi et Seb, après un épisode, on va enregistrer nos réflexions, on va enregistrer des épisodes solo, des after-shows qu'on appelle, oui. ou des petits extraits d'interviews, des choses comme ça. Donc, on va donner accès à ce contenu-là seulement aux abonnés Oui Monsieur et aussi un épisode secret par saison.
Oui.
Donc, ça risque d'être très intéressant. Et pour commencer, eh bien, allons-y, Seb, je crois que c'est le moment de remercier nos 10 premiers abonnés Patreon.
J'y vais. On a ici Maxime.
Oui.
Maxime, t'as une mention honorable car tu es le premier Patreon de la vie de Distorsion.
Oui.
En fait. Donc, on te remercie énormément de ton soutien. C'est très, très apprécié. Puis, merci de ta confiance.
Merci à Victoria aussi, en passant, t'as un très joli nom.
On a aussi Jean-Philippe. Je suis sûr que tu te reconnais, Jean-Philippe. Donc, merci à toi de ton support infini depuis qu'on te connaît. T'es toujours là pour nous soutenir. Merci encore une fois.
On remercie aussi Max C. Max, c'est grâce à toi qu'on fait un show comme ça. Donc, lâche pas et merci de ton encouragement.
Merci aussi à Sylvie qui nous encourage. Merci Sylvie. Très apprécié.
Un gros merci à Léa aussi qui compte parmi nos 10 premiers abonnés Patreon. Merci à toi Léa et bonne écoute.
Marjorie, qui est une autre nouvelle membre Patreon, donc merci énormément. J'espère que tu en auras pour ton argent.
Sans oublier Sarah. Et oui, évidemment, Sarah n'aurait pas pu faire ce podcast sans toi, donc merci à toi.
On a Nathalie, qui est notre 9e membre Patreon. Merci, Nathalie.
Et pour terminer, Marie-Michel. Vraiment, Marie-Michel, ce show a été fait sur mesure pour toi, donc merci de nous encourager. Ton amour pour nous a une valeur infinie. Donc, merci à nos abonnés Patreon et au fil des prochains épisodes. Là, en ce moment, on est en pause. On va revenir pour une saison complète en mars. Mais entre-temps, on va faire des petits bonus comme celui-là. Ben, au fil de ces épisodes-là, ça va nous faire plaisir de donner un shout-out à tous nos abonnés.
Oui.
Là-dessus, Seb, est-ce que t'es prêt à te plonger dans notre spécial film et série télé?
Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
C'est parti.
Yeah.
Donc, on se retrouve avec Simone.
Yes.
Comment vas-tu, Simone?
Je vais très bien. Je suis très excitée d'être ici.
Ben oui, mais
oui, merci d'avoir accepté de venir discuter avec nous de films et de séries True Crime.
Oui, là où mes intérêts se rencontrent.
Oui, exactement. Mm-hmm. On aimerait d'ailleurs que tu nous parles un peu là, de ton intérêt vers le cinéma puis la culture populaire en général.
Oui. Ben moi, en fait, j'ai grandi avec un père qui travaille en cinéma et une mère qui travaille en journalisme et dans les livres. J'ai eu beaucoup de trucs à regarder et à lire dans toute ma jeunesse. Puis après ça, j'ai étudié en cinéma. J'ai toujours adoré les films. Et c'est juste comme la continuation logique de le fait que j'ai toujours aimé les films un peu creepy, puis tout ça, puis les histoires vraies, les histoires de meurtre, que là, finalement, c'est devenu aussi une obsession pour le true crime. C'est sûr que j'aime les bons films et les bonnes séries de true crime. J'écoute pas n'importe quoi.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y en a des mauvaises aussi.
Oui. Mais en fait, j'écoute tout, mais... Honnêtement, je les réécoute tellement souvent qu'il faut que je choisisse les bons pour les réécouter.
Ah oui, tu les réécoutes, donc...
Oui.
Des fois, tu manques un détail, là, puis là, tu veux y retourner. Puis...
100%. Je réécoute aussi tout le temps mes podcasts, parce que je réalise qu'il y a toujours un bout que j'arrête d'écouter.
Mm-hmm.
Donc, faut que je réécoute pour être sûr de tout me souvenir.
Ça vient où, selon toi, cette passion pour les enquêtes et le true crime? Là? C'est un peu ton côté sombre, là, ta personnalité.
Le côté sombre, oui, parce que, ouais, à la base, c'est ça, là, quand tu me rends compte, j'aime le maquillage, puis les chiens, je suis comme, allô, mais j'aime beaucoup, beaucoup ça. Je sais pas d'où ça vient. Je me souviens que la première fois que j'ai accroché sur une histoire, c'était le Black Dahlia. Je pense parce qu'il y a le côté vieux Hollywood, c'est une actrice, c'était à Hollywood, puis c'était tellement comme dramatique comment son corps était, que c'est vraiment venu me chercher. Puis tu sais, je me rappelle, je me souviens vraiment avoir comme Google les photos, puis être comme « Oh my God! » C'est horrible, mais en même temps, c'est tellement fascinant. Puis ça, c'est sûrement le cas que je voudrais le plus savoir c'est quoi la résolution un jour. Mais en tout cas, ça vient-tu de là ou ça vient du fait que je suis une femme, donc j'ai toujours eu peur de me faire assassiner. Puis c'est comme une façon de vivre cette peur-là, d'en consommer tellement parce que je sais pas, c'est comme une fascination sur la chose qui me fait le plus peur, parce que ça pourrait m'arriver peut-être.
Mais est-ce que ça augmente ta peur ou...
Non.
T'es pas plus peureuse?
Non, ben à part, il y a certains trucs que je réalise, là. J'avais acheté le livre sur le Golden State Killer, là, où, en Begun in the Dark, mm-hmm. puis ça, incapable de lire là, à chaque fois, je faisais des cauchemars.
Ah, ouais.
Mais ouais, mais tu sais, quand t'habites toute seule dans un appart, là, maintenant, ouais, j'habite avec mon copain, mais à ce moment-là, quand j'habitais toute seule, j'étais comme, oh non, 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 ça sera pas possible, là. Il y a un petit bruit, puis je capote. Mais non, c'est, je pense que ça aide un peu à donner une fausse impression qu'on a un contrôle mm-hmm. sur cette peur-là, parce que j'ose croire que je saurais quoi faire s'il m'arrivait de quoi.
Ah oui, non, c'est éducatif, donc.
Oui.
Préventif. Ah,
c'est intéressant comme théorie. Puis le fait que t'évoquais, là, on fait de la psychologie à 2$, là, mais t'évoquais le fait que t'étais une femme puis t'avais peur d'être victime. Est-ce que tu trouves souvent que dans les podcasts ou dans le contenu un peu true crime, les femmes sont un peu toujours montrées comme étant des victimes? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'agace ou au contraire, si tu t'identifies à ces femmes-là?
Ben, honnêtement, des fois, là, j'ai comme des passes où je suis juste plus capable d'entendre des histoire de femmes qui vivent de la violence. Puis c'est sûr que c'est majoritairement, malheureusement, des femmes qui sont les victimes. C'est comme, c'est juste ça, la vie.
Ils sont plus vulnérables.
Oui, c'est ça. Juste d'un côté physique, la force physique, les femmes sont plus vulnérables. Puis il y a tellement souvent de maris ou de copains qui tuent leur blonde ou leur femme que ça, c'est sûr et certain. Mais c'est... Oui, tu sais, c'est juste... Des fois, je suis plus capable. Honnêtement, des fois, je suis vraiment plus capable. Puis c'est pour ça, je pense que, ben, plus tard, là, on va parler de films et de séries qu'on aime. Et j'en ai choisi quelques-uns que, justement, c'est pas les femmes qui sont des victimes. Parce que, des fois, là, c'est comme le fatigue d'entendre des histoires de violences sexuelles puis de meurtres tout le temps. T'es juste comme, ben, voyons donc. Mais non, c'est, oui, j'avoue que des fois, ça m'agace. J'aimerais plus d'histoires où c'est un gars qui meurt.
Oui, mais écoutez, je pense que les gènes de tueurs en série, ou je sais pas comment dire ça, vont plus dans le sens des hommes.
Tout à fait.
De masculin, ce côté-là, là. Oui, oui.
Ben, on sait, là, les tueurs en série, souvent, c'est comme déclenché par un traumatisme crânien à la jeunesse. Puis souvent, les gars sont plus encouragés à être sportifs, physiques. Fait qu'ils se font plus mal quand ils sont plus jeunes. T'sais, c'est rare qu'une petite fille... tombe d'un arbre à 6 ans et puis après, c'est, en tout cas. Oui, les gars sont plus propices à ça, puis aussi, bon, moi je peux parler de ça pendant des milliards d'années, là, mais...
Oui, ben oui, puis souvent, ils ont toujours régulièrement, ils ont des relations toujours étranges avec leur mère.
Avec leur mère, c'est tout le temps
c'est
ça.
C'est tout le temps des...
Oui, drôle de relation avec la mère, traumatisme crânien, puis faire pipi dans le lit.
C'est une ça semble être une constante.
Oui, tout à fait. Mais
je
ne
savais pas les traumatismes crâniens, honnêtement.
Oui.
Je pensais pas que... Parce que c'est vrai que les jeunes garçons sont plus aventuriers. Je savais pas qu'il y avait une corrélation.
Tout à fait. Je pense que c'est le My Favorite Murder, le podcast, que les filles, à chaque fois, elles sont comme... Ben oui, tu regardes dans sa jeunesse, traumatisme crânien, à chaque fois. Puis c'est tout le temps assez jeune, puis c'est souvent des accidents vraiment niaiseux, ça... Puis, comme vous avez dit, là, les drôles de relations avec la mère, c'est vraiment le cocktail parfait pour faire un affreux tueur en série qui va venir par tuer ses blondes parce qu'il haïssait sa mère ou parce que sa mère haïssait son père ou des trucs comme ça.
C'est vraiment comme ça.
Oui, puis c'est pour ça aussi qu'en tout cas, je pense là, que la majorité des tueurs en série viennent des États-Unis parce que les États-Unis, c'est tellement... tout ce qui est la sexualité puis tout, c'est tellement...
tabou un peu.
Oui, c'est super tabou à cause de la religion puis tout ça. Tu sais, ils aimeraient mieux tuer leur femme qu'avoir un divorce. C'est fascinant. C'est juste laisse-la. Juste laisse-la, c'est vraiment correct, là. Comme c'est pas grave, faut que je la tue avec tous tes enfants.
Les familicides, mais même au Québec, on a...
C'est vrai qu'on en a beaucoup au Québec.
C'est assez incroyable.
C'est vrai.
T'as mentionné My Favorite Murder. Ouais. T'es une bonne consommatrice de podcasts en général.
Oh mon Dieu, tous les podcasts que j'écoute.
Quand est-ce que t'écoutes ce type de contenu-là? Est-ce que c'est plus avant de te coucher ou c'est dans les transports? Ou...
Ben, j'écoute tout le temps des podcasts. Puis j'écoute juste des podcasts de true crime. Fait que c'est comme quand je me prépare le matin, quand je marche pour aller prendre le métro, dans le métro, en promenant mon chien. Fait que c'est des fois, c'est long, là, des promenades. Je vais au parc à chien pendant une heure et demie, j'écoute un podcast. Non, pas avant d'aller me coucher. Peut-être que j'ai pas le goût d'entendre « et elle a été assassinée » avant de fermer les yeux.
Effectivement.
Mais non, c'est beaucoup faisant du lavage, là, des affaires à la maison, mais beaucoup, beaucoup en promenant mon chien.
Puis est-ce qu'il y a des histoires ou des enquêtes qui t'ont le plus passionné, là, des exemples à la distorsion, là, plus dans l'angle de distorsion?
Ah, j'en ai plein. C'est sûr que récemment, c'est qui le dude qui a tué sa femme puis ses enfants? Vous l'avez fait?
Chris Watts.
Oui, Chris Watts, j'étais complètement obsédée par ça, de pouvoir voir les vidéos de caméras de surveillance puis
de body cam
des policiers, de voir comment il est... Moi, après une seconde, j'étais comme, ce gars-là, il ment, là. Il est comme, je suis tellement triste et troublée, c'est tellement bizarre revenir à la maison, puis il était pas là, puis j'étais comme, c'est tellement toi qui l'as tué. Ça, c'est fou qu'on ait accès à des trucs comme ça maintenant. Ce gars-là m'a beaucoup, beaucoup marqué. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? Ben, le documentaire sur Luca Rocamagnotta. Moi, il y a un de mes podcasts préférés, c'est True Crime Obsessed, qui parle ou il commente des séries ou des films de True Crime. Fait que, tu sais, à chaque fois, j'écoute le documentaire, après ça, j'écoute leur
analyse.
Leur analyse. Mais c'est vraiment une analyse, c'est plus humoristique, ça, c'est super léger, c'est très drôle. Mais ça, il voulait pas le faire, le truc sur Luca Rocamagnotta, parce que, ben, la fille qu'il fait, elle a plein d'animaux, puis en tout cas, elle voulait pas l'écouter. Même moi, j'ai attendu en écouter parce que j'étais comme, j'ai demandé à tout le monde à quel point on voyait les chats.
Ouais, exactement. Ouais.
C'est fou, j'étais vraiment plus peur de voir les chats que de voir l'humain se faire tuer. Mais non, ça c'était... Ben, tu sais, ça reste, je pense qu'on est Québécois, Luca Rocamagnotta, c'est un peu... ça nous a tellement marqué, c'est pas une obsession, mais j'ai trouvé le documentaire super bien fait.
Très bien fait.
Oui.
Vraiment, vraiment bien fait. Mais d'autres cas... Réfléchir est une option.
On va avoir la chance d'en discuter.
Tout à fait.
On vous a préparé, cher Distordu, un peu notre top 3. Donc, oui. Top 3 de Simone, de Seb, dans mon cas aussi, autant en film qu'en série télé. Mais peut-être avant de débuter, Simone, tu avais une histoire pour nous, là, une histoire de true crime liée à un film hollywoodien.
Oui. OK, c'est fou parce que j'ai comme eu un... C'est, comment dire? Il y a un petit lien avec moi, minuscule. Mais je vais vraiment avoir l'air de me vanter, OK? C'est horrible comme histoire, tellement j'ai l'air de me vanter, mais c'est juste, je la raconte parce que moi, je trouve ça fou que ça me soit arrivé. Mais parce que mon père travaille en cinéma, mon père connaît quand même bien Naomi Watts parce qu'il a fait 2 films avec elle.
OK.
Puis à un moment donné, elle était à Montréal, puis mon père m'a comme... trick à aller prendre un verre avec lui puis elle en me disant que c'était juste lui puis genre Jean-Marc Vallée puis du monde comme que je connais aussi, mais là j'arrive,
c'est juste
là,
lui et Jean-Marc,
oui, juste Jean-Marc Vallée,
oui, juste Jean-Marc Vallée, mais lui je le connais, j'ai vu quand même plusieurs fois parce que mon père a fait tous ses films. Puis là j'arrive puis il y a Naomi Watts puis je suis comme ok, super, whatever, c'est pas grave, c'est cool, enchanté, Naomi Watts, I guess, c'est quand même impressionnant, c'est quand même,
oui,
une,
ben
grande,
oui,
actrice,
une de mes actrices préférées,
oui, mais oui, j'aime bien aussi,
elle est très gentille d'ailleurs. Mais là la soirée avance puis ils sont comme « Oh, on va aller souper au Joe Beef! » Moi, je suis comme « Bien sûr, on va aller souper au Joe Beef avec Naomi Watts, genre en T-shirt, mais ça avait vraiment pas rapport. » Là, mon père nous met dans un taxi, moi, ma soeur, puis Naomi Watts, puis lui, il s'en va dans un autre taxi avec Jean-Marc Vallée. Puis là,
c'est drôle.
On arrive au Joe Beef, je suis toute seule avec Naomi Watts, ma petite soeur, OK? Puis là, la personne à la porte du Joe Beef est comme « Ah, Madame Watts, je vais vous amener à votre table, mais juste pour que vous sachiez, votre invité est déjà arrivé. » Puis là, je suis comme « C'est qui l'invité? » On va bien voir. On arrive à la table, puis il y a Susan Sarandon assise toute seule à une table. Moi, je suis comme... mon cerveau, okay, explose. Faut l'impressionner. Susan Sarandon, ça a comme... tu sais, ça n'a aucun rapport. Puis là, on s'assoit à la table. Puis là, moi, je vais juste écouter leurs histoires. Là. C'est comme tellement intéressant. Puis Susan Sarandon raconte que là, ben, elle était à Montréal pour faire le film de Xavier Dolan, mais qu'elle avait déjà tourné au Canada. Elle avait tourné à Winnipeg en 2003. Puis, elle nous raconte que sur ce tournage-là, à Manny, il y a quelqu'un qui est rentré dans son trailer puis qui a volé ses bijoux.
Oh.
Qui a volé un sac de bijoux, puis c'était comme ses bijoux à elle. Qu'elle mettait dans le film, mais que c'était quand même ses bijoux à elle. Puis là, ça m'énerve parce que je me rappelle plus, mais me semble qu'elle avait dit que c'était quelqu'un de vraiment cool qui lui avait donné le collier. Genre Woody Allen.
OK.
Mais je me rappelle pas, fait que je vais pas m'avancer. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas. Puis là, elle est comme, ouais, c'est fou, tu sais, je capotais. Mais le pire là-dedans, c'est que le gars qui a volé mes bijoux, il s'est fait tuer cette même journée-là. Fait qu'en gros, elle tournait à Winnipeg. Il y a un doute qui était un homme des Premières Nations qui était venu à Winnipeg pour le week-end parce que c'était le 1er juillet. Fait qu'il venait faire la fête avec sa famille. Puis il faisait le party. Il a vu un tournage. Il a vu une opportunité, il est rentré, il a volé des bijoux. Après ça, il est allé dans un bar, il essayait de vendre ses bijoux à tout le monde. Là, il y a un gars qui l'écoutait parler, qui était comme, OK, quel est cet humain qui essaie de vendre des bijoux? Ils se mettent à se parler, les deux gars. Et finalement, ils partent sur une espèce de chire, là. Ils se mettent à boire puis à faire de la drogue toute la journée, parce que là, c'est le jour, là. C'est genre l'après-midi, c'est un peu awkward. Ils sont complètement sous. Ils partent du bar, ils vont dans une chambre d'hôtel. Finalement, ils réalisent que comme ils se plaisent, fait qu'ils... Il se passe des choses dans la chambre d'hôtel, ils prennent des photos de l'un et l'autre avec une caméra jetable. Puis après, ils ressortent de l'hôtel, ils retournent au bar, continuent à faire le party, ils reviennent à la chambre, puis là, un des deux se réveille le lendemain matin, complètement blackout. Il rentre dans la salle de bain, il réalise que l'autre, lui qui avait volé les bijoux, qui s'appelait Robin Green, est dans le bain, complètement, genre, 60 coups de couteau.
Hein?
Oui.
Oh.
Je sais pas à quel point je peux être dégueu, là, mais En tout cas, vraiment là, en morceaux, le gars. Fait que là, le gars
à Montréal, Sydney, ça.
À Winnipeg.
À Winnipeg, pardon.
Sydney, lui qui s'est réveillé blackout puis qui a trouvé son ami dans le bain.
Mais démembré, là, c'est un peu ça que tu veux
c'est
dire.
C'est démembré, ou... oui, en 8 morceaux. Ouf. La tête, le torse, les jambes, les bras, puis un bras en deux. Si je ne m'abuse, ça fait 8. Fait qu'en tout cas, le gars, Sydney est allé comment tu dis, ça, à la police. Tu dis, c'est moi qui ai fait un crime.
Il est allé se confier.
Moi, ça. Il est allé à la police lui-même. Il a dit qu'il était complètement saoul, qu'il s'est réveillé et tout ça. Puis là, quand la police est arrivée, ils ont trouvé tous les bijoux de Susan Sarandon dans la salle de bain, à côté du cadavre démembré et décapité. Puis là, eux, ils avaient eu l'appel de Susan Sarandon elle-même. Ils ont fait comme le lien. Puis là, c'était la grosse affaire de comme... Elle a été super mal à l'aise de tout ça. Elle était comme... Est-ce que ça a un rapport avec moi? Est-ce que c'était genre un fan fou ou quelque chose? Mais en tout cas, finalement, c'était juste un pauvre type qui était au mauvais endroit, au mauvais moment, qui est tombé sur un gars qui était vraiment dans un délire de drogue et d'alcool. Il a été reconnu coupable, mais pas psychologiquement non responsable, parce qu'il était sur la drogue. Mais c'est ça. Mais quand on l'avait raconté, il était ultra troublé de ça. Là, comment laïssait le fait que quelqu'un qui avait volé ses bijoux s'était fait tuer, genre quelques heures après.
Ben, c'est clair.
Non, c'est drôle. Hein.
Ouais. Le film, c'était Shall We Dance, avec Richard Gere puis J-Lo. Susan Sarandon. Mais en tout cas, c'était l'histoire qu'on m'a racontée. First hand, puis moi, tu sais, je la connaissais pas, cette histoire-là, puis là, que ça sorte de la bouche de Susan Sarandon, c'était genre un rêve.
Ben oui, c'est... Oui, non, mais c'est une super anecdote.
C'est tout. Je voulais pas me vanter sur les connexions de mon père, mais...
Saint-Indiscret, ton père, il fait quel métier en tant que
tel? Il est directeur photo. Fait que c'est les images et l'éclairage. Okay. Puis c'est ça, dans le fond, il avait travaillé avec Naomi Watts sur Demolition, le film de Jean-Marc Vallée avec Jake Gyllenhaal, puis sur Shut In, qui est un affreux film d'horreur qui a, je pense, 0% sur Rotten Tomatoes. Okay. Mais les images sont belles.
Ben oui, je sais. Rappelle-moi son nom de ton père, c'est Yves.
Yves Bélanger.
Oui, c'est ça, oui. Yves Bélanger.
Ah, ben oui,
oui,
OK.
Yes.
Ah, ben
oui, c'est un grand directeur.
Ben oui, OK, oui, son nom.
Oui, là, j'ai dit deux projets moins connus, mais il a fait Big Little Lies, la première saison, Sharp Objects, qui est un pas true, mais qui est un crime.
Ouais, oui, qui est excellent aussi.
Qui est excellent. Donc, ouais,
Wow, ben c'est bien, c'est bien.
Oui.
La pomme est tombée pas trop loin de l'arbre, finalement.
Exactement. Non, la pomme de l'écriture de ma mère et du cinéma de mon père.
Oui, exact.
Un beau mélange.
Ben, c'est une très belle anecdote, ça. Simone, merci de l'avoir partagée avec nous.
Ça me fait plaisir. Personne d'autre peut l'apprécier, vraiment.
Peut-être qu'un jour, on aura la chance d'avoir Susan Sarandon à nos micros pour pouvoir en témoigner.
Oui, j'aimerais ça serait
bien. Qui sait? Mais je pense qu'on est prêt à enchaîner avec nos suggestions de films.
Okay.
Simone, fais-nous donc ton top 3, là. Ben, en fait, commençons par le début, commençons par le premier, tiens.
OK. Ben là, mon top 3 de films, il n'y a pas vraiment d'ordre. J'ai plus un ordre,
pas besoin d'ordre
pour mes séries, mais ça, là, il n'y a pas d'ordre. Puis j'ai essayé d'y aller avec des trucs qui sont moins connus, là, parce que je pense qu'il y a des films de true crime que tout le monde connaît. OK. Le premier, c'est Long Shot sur Netflix. Avez-vous vu ça?
Moi, je l'ai vu. Ben, je vais te laisser en parler, mais oui, c'est savoureux, ça.
C'est vraiment court, là. Je pense que c'est 45 minutes. Puis dans le fond, c'est un homme, il s'appelle Juan Catalan, qui était accusé d'avoir tué, c'est une jeune fille de 16 ans qui était supposée comparaître pour un procès du frère de Juan. Puis il se fait accuser du meurtre de cette fille-là. Puis comme, mais c'est pas moi qui le fait. Puis son seul alibi, c'est qu'il était au baseball avec, si je ne m'abuse, son fils au moment du crime. Mais là, il faut qu'il le prouve. Là, il y a les billets, mais c'est pas assez bon pour prouver qu'il n'est pas juste parti de la game de baseball. C'est long, une game de baseball.
C'est peut-être un alibi. Ouais,
exactement. Fait que là, il faut qu'il essaye de trouver, de prouver d'une certaine façon qu'il était au baseball tout le long de la game. Puis là, ça adonne qu'il filmait un épisode de Curb Your Enthusiasm cette journée-là, au même stade. Mais là, il essaye de comme trouver du footage de lui. En tout cas, c'est une espèce d'affaire impossible. C'est vraiment pas long, mais c'est super intéressant. Puis je vais pas vendre le punch, mais c'est short and sweet. Là. Ça vaut vraiment la peine.
Okay, hein, je le connais pas, je vais l'écouter.
Puis un petit twist, une série, encore une fois. Là, c'est comme la télé au service d'un humain qui est accusé faussement. Mais non, c'est vraiment bon.
Oui, c'est clair, parce que ça met un peu en perspective ton devoir, ben du moins dans le système judiciaire américain, de devoir prouver que t'es innocent.
Ouais, mais c'est ça.
Puis là, même, tu sais, le gars, ben lui, je veux dire, il est présumé innocent, évidemment, mais tout ce temps-là, il doit faire des recherches pour voir vraiment si il doit prouver à lui-même qu'il était au match, tu sais. Puis c'est pas évident.
Non,
ben
non,
oui.
Non.
Il est très chanceux qu'il y ait eu une émission de télé qui tournait pas loin, parce que
ouais, ça
nous arrivait, nous, à Montréal, au Stade Olympique, il y a bien des chances qu'il y ait aucune caméra qui te filme, là, tu sais. Puis même à ça, je me demande si on obtient le footage, est-ce que c'est suffisant encore pour prouver que tu étais là tout le long, tu sais?
Exact.
Non, c'est ça, c'est assez fou, c'est vrai.
Ça montre un peu, justement, souvent un fait très anecdotique peut avoir des conséquences vraiment importantes sur ta vie, là, tu sais.
Ça donne le goût de garder tous les billets, toutes les preuves de tout ce qu'on fait tout le temps, juste pour être sûr, parce que...
Activer votre Google Map.
Parce qu'on n'est pas bon à se rappeler des choses qu'on fait, puis de revenir dans le passé. Souvent, on voit des cas comme Serial, entre autres, qui étaient vraiment basés sur la mémoire de jeunes ados. Vous vous rappelez de telle journée en 99.
C'est tellement frustrant, ça.
Puis, tu sais, mais juste quand tu fais un test autour de toi, là, tu sais, je vous demande qu'est-ce que vous faisiez vendredi dernier à telle heure, puis...
On s'en souvient pas nécessairement.
On s'en souvient pas nécessairement. As-tu vu telle personne cette journée-là? Ben,
peut-être que oui. Ah, c'est peut-être la veille. Ah, c'est peut-être, tu sais, t'es jamais certain. Non,
ben oui.
Puis ils disent que souvent, on se fabrique même des souvenirs.
Mm-hmm. Ben oui.
Tu sais, c'est en plus de pas se souvenir de tout, parce qu'on a trop l'eau d'informations à chaque jour. Là. C'est normal que le cerveau peut pas...
Mais ça me fait réaliser qu'il y a beaucoup de true crime qui sont basés là-dessus. The Keepers aussi, c'est ça. Des faux souvenirs, des souvenirs construits ou des souvenirs effacés, justement. C'est vraiment, on peut plus ou moins se fier à ça, dans le fond.
Ben oui, je pense que l'ère numérique change un peu ça, parce que maintenant, il y a tellement de façons de prouver que tu étais bien là, grâce justement à la positionnement de ton téléphone, grâce à tes activités sur les médias sociaux.
Les caméras de surveillance.
Ben oui, les caméras de surveillance. Donc maintenant, je pense qu'on va avoir de moins en moins là, de condamnations basées sur des témoignages.
Puis j'espère moins de crimes, point. Parce que, mettons juste Chris Watts, je peux même pas croire qu'il a pensé qu'il pouvait s'en sortir. Genre, sa maîtresse à qui il textait. Il y a tellement de preuves qu'il a laissées que c'est comme...
Mais j'ai l'impression que tu deviens dans une genre de... dans ton propre monde, dans une lubie totale. J'ai l'impression que c'est ce qui fait que... C'est un peu pour te protéger. J'ai l'impression que ton cerveau, il fait ça justement pour que tu continues à avancer.
Mm-hmm.
Puis rester dans le déni continuellement. La plupart des criminels, ils sont souvent comme ça au départ. Ils nient absolument tout. Ouais. Puis sont convaincus qu'ils se feront pas prendre. Mais la police est ratoureuse hein, quand même. Ils sont quand même capables, capables d'enquêter.
Ouais.
Donc, Longshot, ça, c'est disponible sur Netflix
c'est
encore
sur Netflix,
maintenant.
Okay. Tout à fait. Mon autre, c'est HBO. J'ai comme un peu triché parce que c'est deux parties, mais ça compte pas comme une série. Là. C'est comme un long film en deux parties. C'est I Love You, Now Die, qui est encore une fois très ère numérique, mais c'est Michelle Carter, la jeune fille qui était accusée d'avoir poussé son copain à se suicider par message texte.
Ah mon Dieu, oui.
Tu sais, je trouve ça tellement intéressant parce que, quand tu entends parler de ce cas-là dans les médias, ils ont vraiment montré la fille comme une genre de belle fille froide qui s'en foutait de lui puis qui lui textait des affreuses choses. Mais après ça, tu montres l'envers de la médaille, le côté que lui, il la harcelait, il la manipulait. Ça faisait 2 ans qu'elle essayait de l'aider à trouver de l'aide parce qu'il disait tout le temps qu'il voulait se suicider puis il faisait rien. Puis il était comme si tu m'aimais vraiment, tu me supporterais là-dedans. Fait qu'à un moment donné, elle a viré de bord, elle a dit « OK, d'abord, on va t'aider ». Mais c'est pas que ça excuse qu'est-ce qu'elle a fait du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis parce que c'est des enfants, là, c'est vraiment des jeunes ados, aucun des deux était majeur, je pense, quand c'est arrivé. Puis ça se passe tout en message texte. T'as comme tellement de preuves, mais en même temps, c'est tellement libre à l'interprétation.
Ben oui.
Puis il y a aussi le moment où il s'est enlevé la vie, ils se sont parlé au téléphone pendant une demi-heure, puis ça, on saura jamais qu'est-ce qui s'est dit là-dedans.
Mm-hmm.
C'est vraiment fascinant sur tout ce qui est nouvelle technologie, mais aussi le système de justice, parce que, en tout cas, c'est comme, il n'y en a pas encore des lois pour ça, pour toutes ces affaires-là.
Non,
pour tout ce qui est les jeunes puis leur sel, là. C'est vraiment comme, c'est tellement une zone grise, mais ça, c'est super bien fait, puis c'est vraiment...
Mais j'en vois de plus en plus des condamnations de gens qui sont accusés d'avoir forcé une autre personne à se suicider. Mmh. On voyait pas ça avant. Je sais pas, c'est parce qu'on manquait de traces ou ça, où il y avait pas nécessairement d'enquête, mais on dirait que de plus en plus, c'est un phénomène qui est grandissant d'accuser des personnes externes pour le suicide de quelqu'un. Je sais pas qu'est-ce qui peut vraiment expliquer ça.
Oui, parce que tu sais, il y a tout ce qui est genre harcèlement sur les réseaux sociaux puis tout ça, mais tu sais, un message texte, depuis quand tu reçois un message texte, t'es supposé faire exactement qu'est-ce que la personne te dit. Si la personne n'est pas là avec un gun en train de te dire fais ça ou sinon, c'est un truc que tu lis, c'est vraiment spécial, mais c'est super, super bien fait. Là. Il y a comme vraiment tous les détails, puis il explique vraiment comme tu comprends pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, tu comprends lui aussi d'où il venait un peu là-dedans. Donc c'est, très bon. I Love You, Now Die sur HBO.
C'est sorti en quelle année?
C'est super récent, c'est genre cette année.
Ah ben, oui,
oui, parce que c'est encore récent.
2019, oui.
Oui, 2019, je pense que c'est sorti sur HBO.
Ben oui, je connaissais pas du tout ce film-là, mais oui, très intéressant. Ben, en fait, en deux parties, comme tu dis.
Oui, non, moi, je suis une de ces personnes qui a pogné Crave pour écouter Game of Thrones.
Oui, oui, oui.
Puis là,
ah,
depuis ça, je le garde, puis là, je découvre plein d'affaires.
Ça vaut la peine?
Ah oui, vraiment. Okay. Oui, non, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses sur HBO.
Ah, ben oui. Puis en plus, c'est inspirant. Mais cette histoire-là, ça pourrait être un bon épisode de Distorsion.
Oui, absolument. Oui, oui.
100%. Vraiment.
Ah oui, carrément. Ouais. Bonne suggestion, Simone.
Yay! Et ma dernière suggestion, c'est The Imposter. Ça aussi, c'est sur Netflix.
Ah oui!
Mais ça, c'est juste... C'est tellement fascinant. Puis je trouve le documentaire vraiment bien fait. C'est super cinématographique. Là, ça se déroule vraiment comme un film.
Ouais.
Dans le fond, ben, pour les gens qui ne savent pas, là, c'est en 97. Puis c'est un gars en Espagne, un homme là, en Espagne, qui se fait passer pour un petit garçon qui est disparu du Texas comme 3 ou 4 ans avant. Puis ça marche, mais c'est quand même fou là, parce qu'on parle d'un petit gars blond aux yeux bleus du Texas. Puis là, c'est un homme français avec les cheveux foncés, les yeux foncés, la barbe forte. Puis sa famille le croit. Mm-hmm. Mais c'est vraiment... Ouais. T'es comme, est-ce qu'ils croient parce qu'ils veulent le croire puis ils veulent retrouver leur membre de la famille? Ou là, à un moment donné, tu te mets à croire, mais voyons, ils ont-tu quelque chose à voir dans la disparition?
Est-ce que ça les arrange?
C'est ça, est-ce que ça les arrange qu'ils soient revenus? Puis que c'est, en tout cas, c'est vraiment, c'est super bien fait. Puis ça aussi, c'est pas trop long, me semble, sur Netflix.
Ouais, 1 heure et demie, je pense.
Ouais, j'ai une genre 1 heure et demie, puis ça s'écoute super bien. C'est vraiment comme un film. Puis moi, ça, la dernière demi-heure, j'arrêtais pas de dire, c'est sûr, c'est pas vrai, c'est sûr, c'est pas vrai, c'est sûr, un faux documentaire, puis j'arrête de me faire avoir. Puis à la fin, t'es comme, ah ben non, c'était vrai. Mais c'est comme incroyable. C'est une histoire complètement folle.
Moi, j'ai adoré l'aspect narratif de ce film-là. Mm-hmm. On t'enligne vraiment dans une histoire, puis on aurait pu partir par l'inverse, parce que cette personne-là, on veut pas trop vous spoiler.
Ouais,
là,
c'est ça.
Cette personne-là est connue, en fait, du grand public, mais on commence pas en te la présentant, on commence vraiment en te racontant l'histoire de Nicholas Barclay qui est disparu, justement, de sa famille, puis on t'amène à croire différents trucs, puis t'as même l'impression que ce gars-là qui revient ou qui arrive aux États-Unis met le doigt sur des choses là, sur des secrets de famille qui sont vraiment troublants.
Oui.
T'as des gens qui meurent au travers de ça. T'as un oncle ou un cousin qui meurt, je me rappelle plus exactement.
Oui.
T'as un détective privé qui est assez coloré, qui embarque là-dedans aussi. Donc ce film-là m'avait jeté à terre moi quand je l'avais vu. C'était foutrement divertissant.
Ah oui, je m'en souviens. C'est tu m'en avais parlé. Puis je pense que j'étais revenu le soir même de chez toi. Puis j'avais déjà commencé à l'écouter. Puis je me suis couché super tard parce que je pouvais pas arrêter de l'écouter. Sinon, ça vaut la peine de ce documentaire-là.
Yes.
Ah oui, carrément. Ben merci de ces 3 suggestions de films.
J'allais savoir les vôtres. Je vais voir s'il y a quelque chose que vous me faites découvrir.
Ben oui, ben j'espère. Seb, est-ce que tu es prêt à en enchaîner quelques-uns?
Oui. Moi aussi, j'ai essayé quand même, un peu comme toi, Simone, de ne pas aller vers les plus gros films documentaires connus. Mon premier, c'est, ils sont pas nécessairement en ordre, là. C'est Stranger Than Fiction, c'est de Nanny Killers.
Je sais pas c'est quoi.
Qui est disponible sur Amazon Prime, du moins au Canada. Puis ça raconte l'histoire de Sophie Lyonnais, une Française de 20 ans. Nos auditeurs français vont sûrement connaître le cas parce qu'il a été extrêmement médiatisé. Elle était titulaire d'un diplôme pour la petite enfance, en fait, pour garder des enfants. Puis elle voulait apprendre l'anglais. Donc, elle voulait apprendre l'anglais, elle avait 22 ans, elle voulait s'émanciper de sa famille et elle voulait faire un peu devenir une nounou dans une famille au Royaume-Uni. Et elle réussit, donc en 2016, elle quitte la ville de Sens, à Yonne, où elle vivait avec sa mère, et elle pense avoir trouvé une très bonne famille à Wimbledon. Et là, c'est une famille, la femme, en fait, elle est proche, c'est une proche de la mode, ça l'a comme un peu attiré vers ça, c'est une proche du milieu de la mode, c'est une femme de 20 ans, puis elle aimait la mode, elle aimait les vedettes pop et tout ça.
Ouais.
Mais finalement, là, c'est vraiment pas le conte de fées qu'elle s'imaginait. Je veux pas trop vous spoiler, là, mais c'est un film, c'est un documentaire qui est complètement dingue, là, ce qui lui arrive à elle, là, tu sais, je vous rappelle le titre, là, de Nanny Killers, là, sans trop vous spoiler, là, c'est horrible, mais vous allez être sur le bout de votre chaise tout le long, C'est vraiment bon. J'ai découvert ça en novembre parce que sur Amazon Prime, étonnamment, souvent on est membre Amazon, souvent pour Prime pour la livraison. Mm-hmm. Et je me suis mis quand même à fouiller dans le catalogue de documentaires. Ils ont des belles petites perles comme ça.
Ils ont une immense offre de documentaires. Oui, c'est vraiment. C'est mal classé, mais quand on commence à fouiller un peu, là, on trouve plein de choses.
Non, exact. Donc, l'histoire de Sophie Lyonnais, Stranger Than Fiction. J'ai aussi.
Puis est-ce que c'est une série? Tu dis que c'est Stranger Than Fiction avec The Nanny Killers, mais est-ce qu'il y a d'autres Stranger Than Fiction?
Ah, mais ça, j'en ai pas vu d'autres, puis je me suis posé la question. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment isolé, là. C'était un film documentaire d'environ 1h30 sur ça, mais même sur Amazon, il n'y avait pas d'autres Stranger Than Fiction avec un autre sous-titre. Donc, je sais pas si c'est juste le titre global ou c'est le nom d'une série, mais dans ce cas-ci, c'était isolé comme ça. Puis il y a eu des. J'ai refait un peu de recherche sur le cas, puis il y a eu des développements en France là, l'année dernière là, par rapport à ça.
Oh, intéressant. C'est une histoire récente, ça.
Oui, 2016, en fait.
OK, quand même.
J'allais spoiler quelque chose, mais oui, début 2016.
Okay. J'en prends bonne note.
Mon autre film documentaire, c'est ça, peut-être que vous allez le connaître, c'est Where is Robert Fisher?
Oui.
Qui est un des plus grands fugitifs américains. En avril 2001, la famille de Robert Fisher, Mary Fisher, sa femme de 38 ans, et ses deux enfants, Brittany et Robert William Fisher Jr., 10 ans, ils ont été assassinés et leur maison a pris en feu. Mais un énorme feu, là. La maison explosait un peu partout. Il y a un pompier qui était blessé gravement. Puis ils ont retrouvé les cadavres de la famille, toutes brûlées. Mais le père, Robert, il était pas là. Et c'est assez. Puis là, on peut suivre un peu. Juste pour vous dire, là, les enfants avaient la gorge tranchée jusqu'aux oreilles. Puis c'est pas une image, là. Quand ils ont retrouvé, même calciné, ils étaient capables de voir. Donc, c'est un horrible meurtre. Et au départ, il collaborait, Robert, mais rapidement qu'il est devenu suspect, il est complètement disparu de la nature.
C'est ça. Il y a pas... on peut couper si c'est un spoiler, mais c'est pas lui qui a fait, c'est comme refait une autre vie ailleurs. Parce qu'ils l'ont retrouvé.
Techniquement, il n'a pas été retrouvé encore.
Je mélange les histoires.
Ah oui, il y en a un autre, je crois que c'est John List.
Oui.
Ah oui, OK, je ne connais même pas. Okay.
Qui est un peu une histoire, un de Ligonnès américain, là, qui est un fugitif, mais qui a été retrouvé là, 20, 30, 40 ans plus tard.
Il y a une nouvelle femme, puis comme son ancienne famille était genre, quoi?
Oui, exact. Non, mais c'est une autre histoire un peu comme ça, dans le fond.
Ah oui, OK. Puis actuellement, c'est ça, c'est là, il est recherché pour délit de fuite et meurtre au premier degré de x3, là, étant donné qu'il a tué sa famille. Il y a toujours une récompense de 100 000 $ qui est offerte. Mais le documentaire est vraiment bon parce qu'ils font vraiment le tour de sa vie avant et toutes les recherches qui est arrivée, et un peu comme Dupont de Ligonnès, hein, quand il y a des gens qui sont recherchés, il y a toujours plein de gens qui croient l'avoir vu à quelque part et ça t'amène vers des pistes et tout ça. Très, très, très bon. Honnêtement, quand je suis tombé là-dessus, c'est une histoire que je connaissais pas du tout. Dans mon cas, mais pourtant, je sais qu'elle avait été, médiatisée, donc ça vaut la peine encore une fois sur Amazon Prime.
Oh, mais bonne suggestion. Ouais, c'est, ouais, bon, c'est... On va regarder ça. Merci de creuser les bas-fonds d'Amazon Prime
pour nous. Ça a bien à donner. Et le dernier, ça aussi, encore une fois, il était sur Amazon Prime quand je l'ai écouté. Il est plus là, mais là, il est sur YouTube. Vous pouvez le louer, en fait, à 4 $. Je l'ai pas vu sur Netflix. C'est Ashley Madison, Sex, Lies and Cyber Attacks. Mm-hmm. En fait, c'est un documentaire sur, je sais pas si vous vous souvenez, en juillet 2015, le site Ashley Madison avait été piraté. Et les données des clients, plein de détails ont été dévoilés sur le web.
Puis ce site-là, c'est un site de rencontre dans le but de commettre l'adultère.
C'est ça, c'est vraiment précisé que c'est un site extra-conjugal. Donc, les clients qui sont là-dessus, ils n'ont pas intérêt à avoir leur information, sur le web. Et ce documentaire-là, il est excellent parce qu'il retrace vraiment toute l'attaque. Mais aussi, on s'est rendu compte avec cette enquête-là que Ashley Madison avait des tactiques très louches et très malhonnêtes aussi pour, garder les hommes sur le site. Je vais pas trop vous en dire, là, mais avec des robots de chat, là. T'sais, on a souvent l'impression sur les sites de rencontres que c'est pas nécessairement une femme à qui on parle ou des choses comme ça. Ben, dans le cas d'Ashley Madison, il y avait certains éléments que ça a été démontré qu'il y avait, des bots qui discutaient avec les hommes pour les garder sur la plateforme et tout ça. Et ben, ça l'a même mené à des suicides, hein, la révélation des noms. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes, il y a eu des personnalités connues aussi politiques qui, qui était dans cette base de données-là. Donc, le documentaire est excellent, honnêtement. Ça fait vraiment le tour de toute l'histoire du piratage de Ashley Madison.
Alors, c'était un peu le début des grandes vagues de piratage puis de vol de données aussi.
Oui, exact.
C'est Anonymous, je pense, qui avait mis tout ça sur Internet, puis c'est comme tellement la plus belle ironie du monde.
Ouais, c'était Pandelium. En tout cas, c'était un autre groupe de hackers qui avait mis ça, mais je sais que leur objectif, il était pas mauvais parce que là, ça, c'est très moral, là, puis je veux pas juger personne, mais tu sais, pour eux, c'est pas bien de tromper ta femme ou ton conjoint.
Non.
Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'ils voulaient dénoncer ce petit côté. C'est un côté un peu moralisateur, mais bref.
Social justice.
Ouais. Parce qu'après ça, t'avais eu, me semble, dans la même année, t'avais genre PlayStation qui s'était fait voler l'ensemble de ses données. Puis là, ben inutile de vous dire que maintenant... Ben, du moins au Québec, c'est l'année 2019 a été l'année des vols de données. Là, donc, avant Desjardins et tout ça, ben il y a eu Ashley Madison.
Oui, oui, c'est quasiment plus dramatique que de te faire voler ton identité quand tu as un profil là-dessus.
Oui, parce que ça a dû gâcher plusieurs familles.
Ah oui,
là, vraiment,
c'est certain. Ben, les suicides, là, ça, c'est fou quand même.
Mais est-ce qu'il y a eu des choses concrètes de faites avec ces données-là volées ou ça a été juste une panique générale?
C'était juste pour exposer les gens.
Oui, c'était vraiment juste exposer.
Mais il y avait un site à quelque part où tu pouvais aller lire.
Oui, puis ce sont, ils en parlent bien. Là, en fait, actuellement, elles sont encore là. Ça a été impossible de les retirer. On le sait sur le web, une fois que quelque chose est là, une fois, oublie ça, là, c'est écrit à l'encre.
Donc toute la liste des clients de cette époque-là a été révélée.
Oui, exact. C'est assez fou. Que je vous invite à l'écouter, à le regarder.
Yeah.
All right. Je crois qu'on est rendu à mes suggestions films, gang. Ben, je commence tout de suite avec The Internet's Own Boy, qui est un documentaire de 2014 sur la vie de Aaron Schwartz, qui est en fait le créateur de Reddit, puis aussi le créateur du fil RSS et de d'autres, des Creative Commons, entre autres, sur Internet. C'est un jeune prodige qui, vraiment très tôt, là, début adolescence, là, montrait vraiment des signes de connaissance informatique très élevés. Puis, peu à peu, bien, il a, en fait, évidemment, il a créé Reddit. Reddit a été vendu à Condé Nast un peu plus tard, donc qui a rejoint le méga empire médiatique. Et puis lui, après, il était un peu désillusionné, je crois, par cette acquisition-là, là, de rentrer dans le monde corporatif. Puis il est vraiment devenu activiste dans le but de protéger la vie privée des gens, puis l'accessibilité aux données et tout ça. Puis, en fait, Aaron Schwartz, il a tenté de pirater les bases de données d'articles universitaires scientifiques. Là. Vous savez, des articles qu'on a accès soit lorsqu'on fait de la recherche en université ou lorsqu'on veut écrire des articles scientifiques, ben, faut en consulter d'autres. Puis, parfois, c'est des milliers de dollars qui sont vendus, ces articles-là. Donc, lui, il s'est rendu sur le campus de Harvard et puis, il a commencé à pirater tous ces articles-là. Son but à lui, c'était pas de les revendre ou quoi que ce soit, c'était de montrer que, justement, c'était d'exposer un scandale. Comme quoi, ces articles-là scientifiques sont gérés par une compagnie privée, mais sont financés par l'argent public.
Exact.
Fait que c'est les contribuables qui payent les universitaires, évidemment, pour réaliser leurs articles. Bon, parfois, il y a des commandites, parfois, il y a autre chose. Mais après ça, c'est une compagnie privée qui en poche tous les profits liés à la vente de ces articles-là. Donc, c'est un peu ce que voulait démontrer Schwartz. Malheureusement, il était pris à son propre jeu. On l'a même filmé sur des caméras de surveillance. Oui. On le voit avec son ordinateur rentrer dans la salle des données, télécharger tout ça. Et puis, ben le film raconte un peu son histoire à lui. Sauf que ça s'est quand même mal terminé, l'histoire de Aaron Schwartz, parce que en fait, il risquait une peine de 50 ans de prison pour ça, puis $1 million en caution. Donc, c'est très, très... une grosse peine quand même, là, compte tenu que, je veux dire, des fois, il y a des meurtriers ou des pédophiles qui vont faire quelques mois seulement. Là. Donc, lui, pour exposer... selon moi, un crime bien plus grand là, commis par les corporations, il risquait 50 ans de prison. En même temps, il avait vu Ross Ulbricht, le créateur de Silk Road sur le Dark Web, prendre prison à vie un petit peu avant. Donc, j'ai l'impression qu'il a senti que c'était que la justice allait pas être de son côté. Mm. Il s'est suicidé dans son appartement en attente du procès. Et moi, ça m'a attristé énormément parce que c'est un jeune prodige. C'est un talent incroyable. C'est un futur Steve Jobs.
Oui, exact.
Ce jeune homme-là, là, c'est vraiment quelqu'un qui avait les valeurs à la bonne place. Mm-hmm. Et puis, en fait, The Internet's podcast Own Boy décrit un peu son parcours, en fait, jusqu'à la toute fin, jusqu'à les différents procès qui l'attendaient, tout ça, l'enquête aussi qui a eu lieu pour le retrouver. C'est un film qui est gratuit sur YouTube, donc vous pouvez aller l'écouter gratuitement. C'est un peu justement dans la philosophie de Aaron Schwartz. On n'a pas à payer pour ça.
On avait même fait un épisode sur
oui, on a sur la couvert
vie.
L'histoire.
Ouais, on a couvert sa vie, la vie d'Aaron Schwartz. S'il y en a qui l'ont pas écouté dans les podcasts, c'est disponible aussi.
Donc, c'est très bien fait, ce documentaire-là. J'en ai un autre pour vous. Donc, mon deuxième, ils sont pas en ordre, moi non plus. Là, je les lance comme ça. L'autre, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est Dear Zachary.
Oh oui.
Dear Zachary, oui, ouais. Qui est un documentaire qui date de 2008. C'est un peu particulier, ce film-là, parce que le réalisateur, qui est Kurt Quinn, c'est pas un réalisateur professionnel. Il a fait des petits films, je pense, ici et là, des petits courts-métrages. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a décidé de réaliser une vidéo en mémoire de son ami Andrew, qui est décédé. Et cette vidéo-là est destinée au fils de ce dernier-là, au fils d'Andrew, qui est prénommé Zachary. Donc, pour faire une histoire courte, parce que c'est une histoire assez complexe, Andrew Bagby, en fait, s'est fait assassiner par sa conjointe Shirley Turner, après avoir décidé de mettre fin à leur relation. Shirley Turner, qui était extrêmement possessive, même à la limite maladive aussi de ce côté-là. Toutefois, Shirley était alors enceinte d'Andrew quand elle a assassiné Andrew, enceinte du futur petit Zachary. Donc, vous voyez dans quelle histoire on se glisse. Donc, après le meurtre, elle a décidé de quitter le pays, de quitter les États-Unis et de fuir vers le Canada. Donc, le documentaire suit cette histoire là, qui est vraiment touchante, mais qui va connaître un dénouement vraiment imprévisible. Donc, on part vraiment un peu de vidéos tournées à la maison. Tu sais, c'est un peu des archives de la fête d'un tel ou quelque chose. Puis le gars, vraiment, le réalisateur, une intention pure de montrer au futur fils d'Andrew comment était son père. Sauf qu'en cours de route, il se retrouve pris dans cette espèce d'enquête-là pour retrouver Shirley Turner, mais aussi se retrouve pris dans tous les déboires judiciaires et policiers qui est de comment on peut arrêter cette femme-là, comment on peut lui mettre la main dessus, puis comment protéger le petit Zachary, en fait, dont elle est enceinte. Donc, comme je vous dis, il y a des dénouements vraiment imprévisibles autour de ça. C'est une histoire qui est extrêmement touchante, très difficile aussi. Moi, c'est un documentaire vraiment qui va me marquer à vie, là. C'est pas un documentaire qu'on écoute en fond. C'est quelque chose vraiment qu'il faut se concentrer. Et c'est très touchant, mais c'est marquant. Vous l'avez vu aussi.
Oui. Je pensais pas que c'était si vieux, 2008, pas, mais je savais pas que ça datait de si longtemps, on dirait. J'avais l'impression que c'était plus récent.
J'ai l'impression que ça a pris du temps avant qu'il fasse son chemin, là. Tu sais, même dans les festivals, à l'époque, il s'est retrouvé sur Netflix à un moment donné, je crois, quelques années plus tard. Il l'était jusqu'à il y a un an ou deux, me semble.
Moi, c'est là que je l'ai vu.
Oui, ça doit être là que je l'ai vu aussi,
Puis je pense que justement, quand t'accèdes à Netflix, ça connaît un peu une deuxième vie. Puis c'est reconnu comme un des documentaires les plus marquants là, en termes d'enquête ou de true crime. Donc, quand même assez intéressant. Je vous suggère fortement de voir ce film-là. Moi, je l'ai vu sur YouTube disponible à 3,99 $. Donc, ça vaut vraiment la peine. Un autre film que je voulais vous suggérer, c'est un peu le parrain des films de True Crime, c'est The Thin Blue Line de Errol Morris. Si vous avez jamais vu ce film-là, Errol Morris, qui est un des plus grands documentaristes, je pense, qui est vraiment c'est une légende. Puis je savais pas, mais en faisant la recherche pour le show d'aujourd'hui, j'ai appris qu'il était détective privé avant d'être réalisateur. Donc c'est particulier, puis c'est justement en travaillant en tant que détective privé qui est tombé sur cette histoire-là. Dans The Thin Blue Line, on suit le cas de Randall Adams qui a été accusé à tort d'avoir tué un policier du nom de Robert Wood. Il a passé 12 ans en prison, ce monsieur-là, Randall Adams, et grâce aux nouveaux détails qui ont été rapportés dans le film de Morris, dans The Thin Blue Line, là, il y a beaucoup de trucs. Errol Morris a entre autres réussi à avoir la confession du tueur, ce qui est pas rien à voir dans ton documentaire. Puis, en fait, le vrai tueur, ce serait un certain David Harris, qui, lui, était mineur à cette époque-là. Donc, il y a vraiment encore un cas de whodunit, là, un cas de les deux. En fait, Randall Adams, qui était accusé à tort, et David Harris ont fait de l'autostop ensemble cette fameuse soirée-là où le policier a été tué. C'est lorsque le policier a intercepté leur voiture, et il a avancé vers la voiture qui avait les phares éteints. Puis c'est juste pour ça que le policier allait vers la voiture. C'est pour leur dire « on est le soir ». Allumé vos phares. Puis il s'est fait tirer en approchant de la fenêtre. Et puis, étant donné que, justement, David Harris était mineur, ben il y a eu un peu une forme de préjugé. Dans le cas de Randall Adams, ben c'était quelqu'un qui suivait un peu, qui voguait un peu par la vie, là, tu sais. Il n'y avait pas nécessairement de domicile fixe, pas de voiture, tout ça. Donc, il a été un peu accusé, là, grâce à des... en raison de préjugés. Puis, en plus de ça... Ben évidemment, Randall a été condamné à mort, donc parce que c'était au Texas, donc lui, il était dans l'aile des condamnés, et pendant tout ce temps, ben Harris, lui, le vrai tueur, était en liberté. Donc le film a vraiment amené des éléments comme quoi la moitié du jury a été accusé de parjure, justement, il a obtenu la confession du tueur, il a remarqué que plusieurs éléments autour de l'enquête avaient été bâclés, et puis un an après la sortie du film de Thin Blue Line, ben Randall Adams a été relâché. Okay. Par contre, étrangement, il n'a pas été compensé. Donc, généralement, je pense qu'ils ont droit, ou du moins à cette époque-là, il avait le droit à 80 000 $ par année d'emprisonnement injustifié, mais lui n'a reçu aucune somme jusqu'à présent. Ah, ouais. Puis paradoxalement, il a même poursuivi Errol Morris, le réalisateur, parce que justement, à cette époque-là, ben Errol Morris lui avait fait signer une entente comme quoi j'ai le droit de faire un film sur ta vie, mais c'était encore les débuts à cette époque-là. Il n'y en avait pas tellement des séries de true crime, 88, des trucs de même. Puis Randall Adams, en sortant, eh bien, il estimait que justement, Errol Morris avait pas le droit de faire un film sur sa vie, tout ça. Donc même s'il l'a fait sortir de l'aile des condamnés, il a quand même poursuivi pour des royautés. Donc, ça a laissé un goût amer quand même à Errol Morris. Mais par contre, The Thin Blue Line a été salué dans tous les festivals. C'est considéré comme le parrain là, des films de true crime. C'est eux qui ont fait les premières reconstitutions d'événements dans un film. C'est Philip Glass qui fait la musique. C'est vraiment une production incroyable là, avec vraiment une qualité cinématographique. Donc, je vous conseille de voir ce film-là si vous êtes des fans de films de true crime. C'est un peu la base. Je sais qu'il a été sur Netflix un bout de temps, mais en ce moment, il est disponible sur Amazon puis sur YouTube à 2,99. Donc, ça vaut vraiment la peine.
Ah, mais c'est bien. Mais je me souviens que tu m'en parlais quand même souvent de ce film-là. Là, je vais faire mes devoirs. Je vais l'écouter.
Non, ça fait tellement longtemps que je le vois dans toutes les listes de documentaires de true crime. Je ne l'ai jamais écouté. Je n'ai pas le choix. Il va falloir l'écouter.
C'est maintenant le moment de passer aux séries maintenant. Mm. On n'avait pas établi de règles précises. Est-ce que c'est des séries de fiction, de documentaires? Je pense qu'on peut toutes mettre.
Oui, moi, j'ai mélangé les deux.
Parfait. Moi aussi.
Moi, je suis resté dans le docu, mais ça change rien.
Yes.
C'est
parfait.
Non, je peux couvrir la portion. Non, c'est parfait. Parce que là, j'allais commencer par Mindhunter. Parce que Mindhunter, c'est pour les gens qui ne savent pas, là, c'est sur Netflix. C'est vraiment une très, très, très bonne série, super bien faite, qui est basée. C'est pas exactement du fait pour fait, mais les deux personnages principaux sont inspirés des vrais agents du FBI qui ont comme inventé le profilage criminel.
Oui.
Puis c'est super intéressant, mais après ça, il y a plein de tueurs qui existent pour vrai qui sont dans la série. Mais c'est trop connu. Puis j'hésitais à parler d'autre chose. Fait qu'en tout cas, on va dire que pour ma troisième place, Mindhunter est à égalité avec une autre série de fiction qui est The Assassination of Gianni Versace.
Oui.
Et c'est quelque chose que... Ben, dans le fond, avant, c'est quoi le American Crime, je pense, qui est comme le sous-titre de la série. Ouais, fait The People vs. O.J. Simpson.
Exact, ouais.
Qui c'était super bon, excellent. Oui. Mais tout le monde connaît l'histoire d'O.J. Simpson. Moi, je savais que Versace avait été assassiné, mais je savais pas du tout que l'homme qui l'avait assassiné, c'était un tueur en série, qui a tué... Ben, parce qu'après ça, en tout cas, écoutez l'émission, là, c'est tellement bien fait, parce que ça tout débute par... c'est un jeune homme gay qui rencontre Versace puis qui devient complètement obsédé par son mode de vie surtout, puis le fait qu'il est riche puis qu'il connaît des gens connus, puis ça le rend complètement fou. Puis un peu comme de Mr. Ripley, là, comme il veut tellement garder son mode de vie puis tellement obsédé par ça qu'il peut pas accepter quand les gens connus commencent à se détacher de lui un peu. Puis il devient fou, puis en tout cas, il part sur un killing spree. Mais c'est vraiment, c'est hautement stylisé comme série. C'est super, super bien fait. C'est super beau. Mais juste parce que c'est une histoire que je connaissais vraiment moins, je pense que ça vaut la peine. Parce que justement, on peut être un peu arrêté. Ça a l'air un peu quétaine, là. Il y a genre Ricky Martin là, dedans, avec des comme, okay. Qu'est-ce que c'est que cette série? Mais c'est vraiment, vraiment bon. Puis ce personnage-là, qui est vraiment un horrible personnage, mais qui est très, très bien joué par Darren Cross, qui jouait dans Glee. C'est vraiment comme un changement de carrière total. Il est super bon. Il y a des scènes vraiment traumatisantes, vraiment graphiques, mais c'est super bon. Donc, à la troisième position, Mindhunter.
C'est des séries qui sont très longues, ça, hein? Je pense.
Les deux, c'est des... Ben, Mindhunter, je pense que c'est des 10 épisodes de comme une heure et demie. Jennifer Saatchi, je crois que c'est 8 épisodes ou peut-être 10. Ouais,
mais les American Story dont tu parles, là, ça me semble au J. Simpson, c'était
10, 12 épisodes. C'est vraiment en détail. Puis là où au J. Simpson, c'était vraiment sur le procès puis sur les deux côtés, ça, c'était vraiment sur le tueur puis sur tous ces meurtres, parce que c'est ça, il y en a plus qu'un. Ce que je savais vraiment pas, je m'étais pas du tout informée sur la mort de Versace. Mais c'est super intéressant. Puis aussi, vu que c'était quelqu'un qui était connu, Versace, ben il y a quand même des personnages qu'on reconnaît qui sont joués par des acteurs très connus aussi. Fait que ça, c'est genre un truc que j'avais hésité au départ parce que je trouvais que ça avait l'air un peu quétaine, mais c'était faux. J'avais tort.
Est-ce qu'il est disponible sur Netflix?
Ça, c'est HBO.
HBO aussi,
ouais.
OK.
Moi, je l'avais loué. Je l'avais acheté. Sur Apple, comme une vieille personne, parce que je n'ai jamais qu'à aller trouver un truc en streaming. Mais non, Mindhunter, c'est sur Netflix, oui, bien ça, sûr. Oui, oui. Puis Gianni Versace, c'est HBO. Donc après ça, on peut le trouver où on le veut. Mais non, c'est deux séries qui sont inspirées d'histoires vraies, mais c'est de la fiction quand même. Mais c'est tellement bien fait que c'est comme écouter un true crime, mais juste avec des super belles images.
Ouais.
Ah. Ouais. Mon autre suggestion, c'est vraiment là où avec les films, j'essaie d'être un petit peu plus originale pour mes séries, j'étais allée avec des classiques parce que c'est ceux que j'aime pour vrai. Puis on les connaît là, les Making a Murderer puis tout ça, mais là je voulais parler encore et toujours de Dirty John.
Oui, ça c'est traumatisant.
C'est mon histoire préférée du monde, je pense. J'ai tout écouté, j'ai écouté le podcast de Dirty John comme 3 fois. J'ai écouté la série 2 fois, puis j'ai écouté le documentaire Dirty John, The Dirty Truth, à maintes reprises aussi.
Avais-tu un kick dessus?
Non, c'est juste parce que... Mais je sais pas comment dire pourquoi j'aime autant ça sans spoiler. Mais je pense qu'il est rendu là que tout le monde connaît l'histoire. Est-ce que j'ai le droit de le spoiler?
Ben, tu peux nous la résumer un peu.
Oui, tu peux. En dire
parce que, OK, en gros, Dirty John, c'est une femme... avec beaucoup de succès, qui s'appelle Deborah Newell, qui était célibataire, puis elle veut rencontrer quelqu'un, fait qu'elle est sur des sites de rencontres, puis elle rencontre un homme qui s'appelle John Meehan, qui est un médecin, entre guillemets, qui était beau, athlétique, whatever, fait qu'ils se rencontrent, puis elle a eu une mauvaise première impression, mais elle a décidé de lui donner une deuxième chance, puis d'aller en date avec lui une deuxième fois, puis finalement, vraiment rapidement, leur relation est devenue super intense, et il lui disait que c'était la plus belle femme du monde, puis qu'il voulait mourir dans ses bras après genre 2 semaines de relation, là. Vraiment super intense, le gars. Puis Deborah, elle avait 2 filles, Tara puis Jacqueline, puis ces 2 filles aimaient vraiment pas John, puis lui disait tout le temps qu'il l'aimait pas, puis qu'il pensait pas qu'elle devrait être avec lui. Les deux, il y avait vraiment un bad feeling, mais elle les a pas écoutées. Ce qui est vraiment frustrant, quand t'écoutes le podcast, là, c'est tellement frustrant. Elle a vraiment de l'air niaiseuse.
Oui, elle a l'air naïve.
Elle a de l'air plus que naïve. Elle a de l'air, t'es comme, t'as le goût de la shaker, puis de dire, mais écoute, tes filles, c'est tes filles la priorité. Mais ça a tellement dégénéré que John, il a réussi à la convaincre de se marier, puis elle était vraiment riche, fait que pour lui, c'était un avantage, bien sûr. Ils se sont mariés comme dans le secret, puis il s'est mis à lui faire croire que ses filles voulaient pas son bien, puis que ses filles essaient de la manipuler, puis que c'est des gâtés pourris, parce que, tu sais, c'est vraiment là, des 3 blondes de la Californie, là, quand ils parlent, c'est vraiment comme, oh my god, c'est vraiment, vraiment intense. Là, comme, ils sont pas très... T'es aimes pas tant, les 3, t'es trouvé un peu comme gossante puis niaiseuse, mais plus tu l'écoutes, plus t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis bref, leur gut feeling, dans le fond, c'était vrai parce que ils ont commencé, les 2 filles, à chercher un peu, à fouiller dans les affaires de John. Puis ils ont réalisé qu'il n'était pas médecin pour vrai. Fait qu'après ça, ils sont mis à tracker. Ils ont mis un GPS sur sa voiture. Ils ont réalisé qu'il faisait semblant d'aller travailler puis qu'il revenait chez eux puis qu'il faisait rien de la journée. Là, comme de fil en aiguille, ils ont parlé à ses ex. Ils ont réalisé qu'il y avait eu des gros problèmes de drogue, qu'il avait été marié, qu'il avait été accusé de plein d'affaires. Il y avait des, comment ça s'appelle, un restraining order en français. Que quand tu peux pas contacter quelqu'un, oui. Là, plein de femmes avaient ça contre lui. Fait que c'est vraiment, là, les révélations arrivent au compte-goutte, mais tu réalises de plus en plus que c'est quelqu'un de John Meehan, quelqu'un de très, très mauvais. Puis, ben là, bouchez vos oreilles pendant 15 secondes si vous l'avez pas vu, mais à la fin, dans le fond, il essaye de tuer Tara, la plus jeune fille de Deborah. Puis, pour moi, là, moi, je m'identifie beaucoup à Tara parce qu'elle dit qu'elle aime beaucoup The Walking Dead, puis qu'elle aime beaucoup les trucs d'horreur, puis oui. De true crime, puis tout. Puis elle a toujours son chien avec elle. Moi aussi, j'ai un chien, j'aime beaucoup mon chien. Puis quand John l'attaque, parce que rendu là, Deborah a complètement coupé contact avec lui, puis il capote, fait qu'il essaie de l'atteindre d'une certaine façon. Il se dit, je vais essayer d'atteindre par ses filles. Il attaque Tara, qui est genre 5 pieds, genre 120 livres, oui, minuscule. Petite, lui, c'est un ancien joueur de football de genre 6 pieds 4, il est immense. Il attaque en plein milieu de la journée, puis il a poignarde dans le fond, puis a réussi, en se protégeant comme elle a appris en écoutant The Walking Dead, elle se protège avec comme ses bras devant sa tête, puis elle a des bottes de pluie, puis elle lui donne des coups, elle n'arrête pas de donner des coups, puis il finit par échapper le couteau, elle l'attrape, elle le poignarde dans l'œil, puis il meurt. Puis ça, honnêtement, je suis fascinée que j'ai réussi à le dire sans pleurer. C'est genre, ça me touche tellement que ce soit une jeune fille qui a réussi à se défendre elle-même, défendre sa mère, défendre sa sœur. Elle a peut-être sauvé la vie de elle et de plusieurs autres femmes.
Oui, exact.
Une toute petite fille avec un chien. Puis c'est mon histoire préférée parce que, pour une fois, ben c'est la fille qui gagne, puis un chien.
C'est un peu le maître incontesté des catfish, là, ce John Meehan.
100%, parce qu'il l'a fait, c'est ça. Je pense que le punch qui est rendu là, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est vraiment intéressant de voir comment il a réussi à duper énormément de femmes très intelligentes et avec beaucoup de succès et de ressources. C'est vraiment fascinant, puis c'est parce qu'il était super bon puis super manipulateur, puis il a toujours été comme ça en toute sa vie. Il pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. C'est un affreux personnage. Mais la série Dirty John qui est sur Netflix, qui est vraiment, c'est quasiment un soap, là.
Ah oui, c'est tellement bon.
Moi, mais c'est tellement bon. C'est vraiment, vraiment bon. Mais moi, je conseille tout ce qui a rapport à Dirty John. Le podcast, la série, puis le documentaire. Dans le documentaire, ils ont tout le monde. Tout le monde, l'ex-femme de Dirty John, tout le monde est là. Donc, c'est un super bon documentaire aussi. Je pense que c'est mon histoire préférée de comme la vie. Je trouve la fin est juste parfaite. C'est le dénouement. Je fais pas demander mieux comme dénouement.
Je m'attendais pas à ça, moi, quand je l'écoutais. Là,
quand j'écoutais le podcast, OK, là, je vais raconter une autre affaire où je vais avoir l'air d'une horrible personne. Mais moi, dans le fond, à un moment donné, j'avais comme pas de job, fait que j'ai profité du fait que mon père travaillait en cinéma, puis j'ai demandé de me trouver un job. Fait que j'étais assistante sur un film qui ont tourné à Montréal, un film américain, qui mettait en vedette Charlize Theron. Puis Charlize Theron, c'est elle qui a produit Mindhunter. Sa productrice adore, les deux adorent le true crime pis tout, pis c'est moi qui ai recommandé le podcast de John à la productrice de Charlize Theron. Je pense un peu que cette émission-là existe à cause de moi.
Mais ben on sait pas.
Pas mal sûr qu'il l'aurait fini, il aurait fini par tomber dessus d'une autre façon, là, mais ouais, c'est à un moment donné, on s'emmerdait entre deux takes, puis elle m'a demandé qu'est-ce que t'écoutes. J'ai dit Dirty John, tu aurais l'écouter, c'est vraiment bon. Puis comme un mois après, comme on va essayer de le faire en série, puis j'étais genre, OK.
Ah ouais.
La prochaine fois, tu diras, j'écoute Distortion.
<C'est ça. rire> Mais ça, c'était un. J'y reverrai plus jamais ces gens-là. Là. J'apportais des cafés sur un tournage.
Ben oui.
J'ai fait ça une fois, je le referai plus, mais c'était vraiment cool pour ça.
Puis en plus, c'est un des premiers podcasts de True Crime qui a été porté à l'écran, Dirty John.
Oui, ouais, t'as raison.
Tu sais, je veux pas dire le premier parce que je connais pas l'entièreté, ouais. Là, mais à surveiller, ben, c'était un des premiers podcasts, point, je pense, être amené à l'écran. Il y a eu Lore, qui est un des premiers,
ouais.
Évidemment.
Ouais.
Puis Dirty John a été un immense succès là, pour Wondery,
mm-hmm.
En fait, qui se spécialise dans des podcasts narratifs. Puis c'est ça. Donc, moi, j'étais très content de voir un podcast amené comme ça au niveau d'un peu de blockbuster là, sur Netflix.
Ah, oui, il y a des gros acteurs. J'espère qu'ils vont pas faire une série avec Dr. Death. Je peux pas.
Moi, j'aimerais
voir
ça. C'est sûr que ça va arriver.
C'est tellement gore.
Moi, j'aime tellement. C'est un de mes podcasts de true crime préférés.
Ah ouais, c'est sûr que ça va arriver.
C'est marquant.
Oh my God.
Ah oui, j'aimerais ça mettre des images sur tout ce qui est... Même si c'est horrible.
Ben oui.
Non, Dirty John, c'était parfait. Ah, il m'en reste une autre. J'ai une autre suggestion. Ben, c'est pas une suggestion, ça aussi, tout le monde le connaît, mais je peux pas ne pas parler de Jinx. Moi, je trouve qu'à ce jour, c'est la meilleure série de true crime jamais faite. Puis c'est beaucoup à cause de la fin, Puis ça, je vais pas la, je vais pas le dire parce que
rien, ça.
Si quelqu'un ne l'a pas vu, c'est tellement, la fin, c'est tellement jouissif. Mais en même temps, il y a des gens qui pensent que c'est arrangé. Pour eux, si c'est arrangé, je m'en fous. C'est tellement, tellement intéressant. Puis en gros, c'est Robert Durst, qui était comme le fils d'une famille de real estate aux États-Unis, super riche, qui avait une genre de double vie vraiment bizarre. Quand il voulait la paix, il se déguisait en femme puis il allait dans un petit appartement qui s'était loué pour lui-même. Puis il faisait semblant d'être muette, parce qu'il voulait pas que les gens le reconnaissent. Puis à un moment donné, il s'est chicané avec son voisin puis il l'a tué. Puis il était accusé de ça. Puis il était comme, oui, c'est moi. Mais il a dit que c'était de la défense. Dans le fond, il a dit que son voisin le menaçait puis tout ça. Puis quand cette histoire-là est sortie, les gens sont mis à réaliser que dans son passé, sa première femme avait disparu, sa meilleure amie a été assassinée. Il y a vraiment comme plein de trucs bizarres dans son passé. Fait que les gens qui font le documentaire s'intéressent à tout ça. Mais ils ont vraiment comme bien saisi. C'est un homme très, très narcissique. Il se pense vraiment intelligent. Ouais. Il se pense vraiment dans toutes ses affaires. Fait qu'il raconte... Mon Dieu, excusez. Il raconte tout. Il livre absolument tout. Il raconte l'affaire avec le voisin, tout ça. Il parle de son ex-femme, il parle de sa meilleure amie. Mais il nie tout. Sauf le voisin, parce que c'est clair, mais c'était acquitté comme self-defense. Puis, dans le fond, c'est ça, les gens qui font le documentaire essaient de pousser un peu sur la disparition de son ex-femme et sur l'assassinat de sa meilleure amie. Ils essaient de lui faire dire quelque chose, puis ils trouvent des preuves. Puis, en tout cas, c'est vraiment... Le dénouement est juste incroyable, comme... Tu sais, c'est genre un truc que ça s'invente pas. Ben, en même temps, peut-être que oui. Je sais pas, mais c'est incroyable, puis c'est de Jinx. Je pense que c'est 6 épisodes, puis ça aussi, c'est HBO. Si je ne m'abuse, c'est vraiment... c'est super bien fait.
Il y a même une fiction avec Ryan Gosling qui a été fait sur sa vie.
C'est comme ça qu'il l'a convaincu. C'est ça, le réalisateur du documentaire, c'est le réalisateur du film.
Ah, ça, je savais pas.
C'est comme ça qu'il a convaincu Robert Durst de faire...
C'est Robert Durst qui a vu le film. Avec le film, c'est All Good Things avec Ryan Gosling.
Oui.
Puis il a trouvé que c'est Andrew Jarecki, le réalisateur, puis il a trouvé qu'il avait fait une bonne job de raconter son histoire. Puis c'est Robert Durst lui-même qui a contacté le réalisateur. Puis c'est à partir de là qu'ils ont fait de Jinx.
C'est impossible.
Puis en fait, il aurait jamais dû passer ce coup de téléphone-là, Robert Durst.
À quel point tu penses que t'es intouchable, que tu...
Ben oui.
C'est
but toi-même aussi, je savais pas que c'était la même personne qui avait réalisé le... Ah ouais, mon Dieu, que c'était un qui avait...
Il y a une couple de réalisateurs qui ont des obsessions, là, comme celui qui a fait le documentaire sur les confession tapes de Ted Bundy.
Oui, c'est celui qui
a fait le film de fiction sur Ted Bundy.
Oui, oui.
C'est comme décroche de Ted Bundy. Mais ouais, non, The Jinx, pour les gens qui l'ont pas vu, je pense que tout le monde, on en a entendu parler toute notre vie. Là. C'est un documentaire super connu, mais avec raison. Puis on s'en fout si c'est arrangé ou pas. C'est juste fou.
Ouais, on dirait que j'ai l'impression que c'est vrai. Mais
non,
bon, c'est
100%. C'est quand tu vois le personnage, parce que ça, c'est tellement bien établi. En tout cas, là, je veux rien révéler, là, mais tu vois, en tout cas, c'est trop bon. C'est trop, trop bon.
Oui, c'est bien réalisé. Ben oui. En plus, on sent que c'est un documentaire fait par des gens qui font du cinéma là, à la base.
Ouais,
là.
100%.
Puis qui savent comment mener des bonnes interviews parce que ça devait pas... Lui, il a passé une vingtaine d'heures, le réalisateur, avec Robert Durst. Ça devait pas être évident de faire le tour de tout ça. Là. Tu sais, sa femme qui est décédée, il y a carrément il laisse une traînée de mort derrière lui, cet homme-là. Là, son voisin qui a été démembré, sa meilleure amie qui a été...
C'est lui qui a retrouvé sa... Non, c'est pas lui qui a retrouvé sa meilleure amie. C'est lui... Non.
Je pense pas que c'est lui qui l'a retrouvé, là, mais...
Il l'avait vu pas longtemps avant.
Oui, c'est ça.
Puis elle a été tirée dans la tête, vraiment comme une exécution. Puis c'est ça, c'est comme... T'es-tu vraiment malchanceux ou c'est quelque chose que tu fais?
Puis le mystère aussi tourne... Puis la série a permis de faire avancer le dossier, tu sais. Il y a la fameuse scène avec l'enveloppe, là. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est assez hallucinant.
Incroyable.
On n'en parlera pas trop aux auditeurs.
Non, puis il est rendu là, le réalisateur, il fait croire à Robert Durst qu'ils sont amis. Et qu'il hésite presque à dévoiler qu'est-ce qu'il a trouvé parce qu'il veut pas briser le lien. Qui a tissé avec Robert Durst, mais t'es comme, fais-le, on s'en fout. Mais ouais, c'est très bon.
Excellente suggestion. Moi aussi, j'ai adoré.
Ouais, ça me donne le goût de le réécouter.
Ah oui, tout le temps.
Yeah. Seb, est-ce que tu veux nous partager tes trois choix de série?
Oui.
Je pense que je l'ai vu. Moi aussi, je l'ai vu deux ou trois fois de Jinx.
C'est tellement bon.
Mon côté, ça, c'est... Ils sont pas tous dans l'ordre, mais lui, c'est mon numéro un. Evil Genius, mm-hmm. The True Story of America's Most Diabolical Bank East. Donc, le génie diabolique, la vraie histoire du vol de banque le plus diabolique en Amérique. Et c'est vrai, le cas aussi s'appelle, si vous voulez faire des recherches, c'est Color Bomb ou le Pizza Bomber. Puis je peux pas trop vous donner trop vous spoiler, là. Je vais juste vous l'introduire parce que ça commence là, avec un coup de poing dans la face. Là, ça commence rough. Disponible sur Netflix. En fait, c'est l'histoire de Brian Wells. C'est un Américain de 46 ans qui est un livreur de pizza chez Mamma Mia Pizzeria depuis 10 ans dans une petite ville en Pennsylvanie, la ville de Erie, qui commet un vol de banque le 28 août 2003. Puis quand il arrive à la banque, en fait, il est équipé autour de son cou, il y a un collier avec une bombe. Et puis il a quand même 46 ans, puis il marche avec une canne et sa canne est en forme de fusil. Et il arrive au comptoir de la banque. Généralement, quand on fait un vol de banque, c'est assez expéditif. Là, on pointe l'arme et on demande l'argent, là, le maximum d'argent. Mais lui, il est arrivé comme avec quasiment un essai, là, une dissertation, une liste de feuilles avec des instructions très, très complètes, toutes manuscrites à la main, mais d'une écriture très, très belle. Ça bluffait le monde de la banque. Et par la suite, je veux pas trop en dire, mais il est sorti, il s'est fait coincer par les policiers parce qu'il s'est fait piéger. Et là, c'est ça. Je peux pas trop en dire, mais honnêtement, là, c'est parce que ça twist tellement rapidement, puis autour de ça, ben là, la police enquête sur l'homme en question avec le collier. Avec
qui est derrière ça?
Oui, c'est ça, qui est derrière ça? Puis c'est là que tu tombes dans vraiment quelque chose de très diabolique. Si vous avez déjà vu la pochette sur Netflix, là, on voit une genre de femme, justement, là. Mais c'est elle, c'est Marjorie Deal Armstrong. Je vous en dis pas plus, mais sincèrement, c'est 4 épisodes d'environ 1 heure. Vous allez être sur le bout de votre chaise à chaque fois qu'un épisode finit. Puis en plus, il y a pas juste une twist à la fin de chaque épisode, là. Il y a des twists un peu partout. C'est le FBI, c'est eux qui disent que c'est le crime le plus compliqué et le plus bizarre qu'ils ont eu à enquêter. Donc, rien de moins, là. Donc, c'est 2003 que ça s'est passé, toujours disponible sur Netflix. Moi, quand je suis tombé là-dessus, c'est sorti en 2018. Je l'ai écouté 2 fois de suite, tellement que ça m'avait marqué le génie en arrière de ce plan-là, qui a l'air vraiment banal, la manière que je vous en parle, mais toute l'histoire, c'est incroyable, vraiment bon. Tu l'as toujours pas vu, hein, je pense.
Oui, moi je l'ai vu. Bonne suggestion.
Ah, oui, c'est trop bon. Evil Genius, c'est fou. Ensuite, tu en as parlé un petit peu tantôt, c'est Conversation with a Killer de Ted Bundy Tapes, que j'ai vraiment adoré. Puis étrangement, c'est une série documentaire, encore une fois, sur Netflix. Il a été mis en ligne l'an dernier, je me trompe pas. Ouais, c'était pour souligner le 30e anniversaire de son exécution. Ils ont comme voulu un peu synchroniser un peu la mise en ligne de la série. Pour ça, ça retrace le parcours et le procès de Ted Bundy. Mais ce qui est incroyable, là, c'est toutes les images d'archives, les conversations qui ont réussi à mettre la main dessus, le procès. Tu vois tout son entourage, les victimes des femmes. Puis on voit vraiment que les femmes, celles qui ont survécu ou celles qui ont daté Ted Bundy, n'en reviennent pas encore. Mm. Tu sais, qu'une si belle personne, si gentille, puisse avoir fait de telles choses.
Oui, le nombre de femmes qu'on voit dire comme « Ah ouais, lui, t'sais, pourtant, il est beau, il est charmant.
Ben » oui.
C'est comme « Voyons donc. » Mais tu le vois dans ce documentaire-là, comment il parle au juge. Il manipule le juge là, comme une petite marionnette. C'est fascinant.
Ben oui, puis je pense qu'il se défendait lui-même.
Oui. Ben oui, ben il étudiait en droit, si je me trompe pas, ou du moins, il avait des connaissances.
Non, je pense qu'il avait déjà étudié en droit.
Oui, c'est ça, il avait des connaissances, mais il est très théâtral, hein, dans ses entrées à la cour et tout ça. Et c'est drôle, moi, quand c'était sorti l'an dernier, j'avais commencé à l'écouter, j'avais pas embarqué. Puis quand j'ai écouté la fiction, là, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, là, le film avec Zac Efron, là, qui personnifie Ted Bundy, qui est quand même bon, même s'il saute beaucoup, je trouve,
d'époque,
qui est excellent, là, je me suis remis à à tout réécouter. Et là, j'ai tout dévoré. Et juste pour vous dire, bon, je sais pas exactement quand le podcast va être diffusé, mais Amazon Prime vont lancer une nouvelle série documentaire aussi sur Ted Bundy qui va s'appeler Falling for a Killer. Puis c'est justement, là, ils font le parcours des femmes. C'est presque juste des interviews avec les femmes qui ont pas succombé à lui. Ça, la bande-annonce, vous fallait la voir, ça a l'air vraiment bon. Je pense que ça sort fin janvier de ce que j'ai vu. Donc, il y a beaucoup d'engouement quand même autour de Ted Bundy. Ouais. Je peux comprendre, même moi, très jeune, je pense que c'est un des criminels. Il y avait beaucoup de films pas de série B, là, mais à l'époque, il en faisait des docu-fictions.
Ben oui.
Ouais.
Puis Ted Bundy, c'était une des premières que j'ai vues. J'avais peut-être 11-12 ans.
Ouais.
Je pense que mon amour du true crime a commencé là. De mémoire, c'est le plus vieille fiction réelle, histoire vraie que j'étais tombé dessus. Donc, c'est vraiment excellent. Mais ça, je trouve que les épisodes quand même de Conversation with a Killer, j'en écoutais un, je trouve que c'est quand même lourd, c'est dur à écouter.
C'est juste des enregistrements.
Oui,
hein?
C'est ça.
Puis moi, c'est ce qui m'a un peu dérangé de cette série-là, c'est que j'ai l'impression que c'est toute de la bullshit. Parce que, tu sais, c'est ce que Ted Bundy disait.
Ça, oui.
Il savait que Ted Bundy, il savait qu'il allait mourir, tu sais. Fait que là, il pouvait dire n'importe quoi, puis il savait que ce qu'il allait dire allait rester. C'était déjà une légende dans le monde des criminels.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai l'impression qu'il y a sûrement du vrai là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de faux aussi.
Ah
que
oui, c'est sûr.
Lui a voulu se monter une personnalité de tueur d'une telle façon. Mm-hmm. Je dis pas que c'est impertinent, que j'ai de la misère à prendre tout ça pour du cash.
Mm-hmm. Mais même le gars qui fait les entrevues, à un moment donné, il dit, il est comme, bon, là, il me niaise, là, il dit n'importe quoi.
À chaque
fois qu'il allait le voir, il était comme, OK, là, on va parler du crime, là, puis il parlait de son enfance, puis ci, puis ça, puis il disait qu'il était donc bien intelligent, puis que c'était un génie, puis tu sais, dans le fond, il voulait juste contrôler sa narrative.
Oui,
il voulait juste vraiment comme décider ça allait être quoi, son idée, pas son idée, mais ça... Ça allait être quoi l'image qu'il allait avoir dans les médias, tu sais, qu'il allait laisser exactement derrière. Non, c'est vraiment...
Non, exact.
Ouais. Mais l'obsession de Ted Bundy, c'est parce qu'il représente tellement le fait que n'importe qui peut être un tueur.
Ben
exact.
Ça fait peur. Tu te dis comme, OK, il n'y avait pas de l'air fou. Mais c'est-à-dire qu'on pense à genre Richard Ramirez ou Charles Manson ou des espèces de... Les cheveux tout croches, cernés, maigres,
genre... Oui, qui ont le casting d'un fou.
C'est
un
ça,
peu,
mais
là,
lui,
déjà...
c'est n'importe quel gars... qui oui, passe dans le beurre.
Mais il virait, c'est la deuxième fois, je pense, quand il était relâché, là, où il s'était sauvé, il y a eu, je pense que c'était à Miami, là, un killing spree, je ne sais plus si c'est à Miami.
Oui, il est rentré dans des dortoirs universitaires, ça n'avait aucun sens.
Incroyable, il pognait n'importe quel. Ah non, c'est incroyable. Moi, il m'a toujours fasciné, parce que, juste pour conclure là-dessus, c'est ce qui est le fun, c'est les images d'archives aussi. Là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on voit.
Vraiment.
Et ma dernière, on a aussi un peu parlé tantôt, c'est de Confession Tapes. J'ai pas écouté la saison 2, que ça fait pas longtemps qu'il est sorti, mais la saison 1, entre autres. Confession Tapes, en fait, c'est toujours disponible sur Netflix, une série documentaire True Crime qui a été disponible en 2017. Dans la saison 1, il présente 6 cas de supposément des faux aveux qui vont amener à la condamnation de la personne qui avoue, là. Puis généralement, c'est toutes des meurtres. Puis dans chacun des cas, ben, ils présentent, le documentaire, c'est ça qui est intéressant, là, ils présentent vraiment des points de vue différents, sur la façon dont le crime aurait pu avoir lieu, puis ils présentent des experts aussi par rapport aux faux aveux. Je vais vous parler précisément les deux premiers épisodes, c'est le seul cas qu'il y a deux épisodes dans la série, mais c'est un cas canadien, en fait, c'est des Canadiens, c'est Atif Raffé et Sebastian Burns.
Sebastian, oui. Son père, à chaque fois qu'il en parle, un jour, Sebastian, we're going to school.
C'est vrai qu'il y a un accent comme ça. Puis eux, dans le fond, vous résumez cette histoire-là, c'est après le meurtre en 94 de ses beaux-parents et de sa sœur, Atif Raffé et son ami Sebastian Burns sont devenus suspects. Bien que les meurtres ont lieu aux États-Unis, Raffé et Burns sont, comme je vous disais, sont des citoyens canadiens, puis sont revenus au Canada après que la police sur place, ils ont peu assez de preuves, en fait, pour vraiment les condamner et les garder avec eux. Ils sont retournés au Canada. Et rendu au Canada, les autorités américaines ne pouvaient pas arrêter cela. Le FBI, en fait, se sont alliés avec la GRC. Entre autres, pour utiliser la technique de Mr. Big. Mmh. C'était la première fois, je crois, que c'était utilisé dans un... Puis même, je pense que depuis ce temps-là, c'est illégal. Ou en tout cas, je sais pas si ça l'a modifié.
C'est très controversé, en tout cas.
Oui, c'est ça, exact. Le Mr. Big, en fait, c'est qu'ils vont utiliser... Vous me le direz, je l'explique pas bien, là, mais c'est un genre d'agent infiltrateur qui vont... qui va essayer de se mettre amis avec justement les supposés criminels pour essayer de leur faire avouer le crime. Là.
Ils disent genre, on va te présenter à Mr. Big qui va s'occuper de toi, puis tu n'auras plus jamais de problème. Mais avant, là, pour être vraiment sûr qu'on peut présenter à Mr. Big, il faut juste que tu nous dises vraiment qu'est-ce qui s'est passé.
Oui, c'est ça, exact.
Puis essaye de soutirer une confession comme ça. Mais moi, ça, c'est, cette émission-là, j'ai arrêté d'écouter parce que les deux premiers épisodes, c'était sur ce cas-là. Je trouvais ça super intéressant.
Vraiment bien, oui.
Puis après, quand ça change de cas, ça m'est... j'ai dit comme, oh non, moi, je pensais que ça allait être juste là-dessus. Ouais. Puis j'en voulais plus.
Mais ils valent la peine, mais j'ai eu le... C'est drôle que tu dises ça parce que j'ai eu la même émotion, puis j'ai fait le même processus. Au départ, j'ai écouté les deux épisodes, puis après, j'étais comme, ah, ben là, c'est plus ça. C'est terminé. Mais j'ai continué, puis c'est vraiment bien.
Okay.
Puis la saison 2, j'ai lu vite les cas, ça a l'air aussi bon aussi. Mais sincèrement, juste pour les deux premiers épisodes de Confession Tapes, cette histoire-là.
Ah oui,
je la connaissais, ce cas-là, mais ils sont vraiment allés creuser quand même assez loin. C'est super intéressant. Donc,
puis
voilà.
Le phénomène des fausses confessions, c'est tellement frustrant parce que t'es comme, mais voyons donc pourquoi tu l'as dit si tu ne l'as pas fait.
Ah oui,
ben
ça,
oui.
C'est...
Mais c'est ce qui est controversé aussi en procès parce qu'ils lui mettent, moi je me rappelle des vidéos de cette opération-là, puis ils leur mettent tellement de pression, là,
c'est incroyable.
C'est comme des enfants.
Ben oui,
ils sont jeunes.
Tu peux finir par dire pour impressionner un mafieux que, ben oui, je l'ai faite, là, tu sais.
Leur espèce d'alibi poche, là, qu'ils sont allés voir un film, ils sont allés manger au resto.
Ah oui, ça, c'était bizarre.
Puis après
le billet de cinéma.
Qui couche avec son avocate.
Ah oui,
ça,
c'est
comme, je l'écoutais, puis j'étais genre, mais voyons donc, fais pas ça, c'est comme la base, là, tiens, tout dépéter ton cas. C'est vraiment des personnages. C'est ça, l'affaire, c'est que le premier est bon parce que les deux gars sont comme, c'est quoi le nom de l'autre?
Atif,
il a de l'air très, très sincère.
Oui.
Puis Sébastien, c'est une espèce de sociopathe.
Oui,
là.
Il est bizarre.
Il est vraiment bizarre. Fait que le contraste entre les deux, t'es comme, OK, je sais vraiment pas qui croire.
Non, exact. Même à la cour, c'était le témoignage avant de recevoir leur sentence était vraiment étrange. Il y en a Atif qui était justement plus... émotif et tout ça, puis Sébastien qui était beaucoup plus arrogant par rapport au juge.
Aucun remords, il est juste comme moi, ça, c'est vraiment pas nice que
mais,
vous me faites
mais,
ça.
Puis ils clament leur innocence les deux toujours aujourd'hui, puis sont encore emprisonnés actuellement. Donc voilà.
Sébastien.
Ben merci Sébastien de ces suggestions-là, très bonnes suggestions.
Ça fait plaisir.
Bon, est-ce que vous êtes prêts pour les miennes? Là,
oui!
On t'écoute.
Ben ça va pas bien ma chère Simone, parce qu'on a déjà un doublon.
Non!
Oui, Dirty John qui était sur ma liste aussi, que j'ai...
On peut en parler une deuxième fois.
Ouais. Non, ça va, j'ai des backups, mais moi aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé Dirty John, puis son compagnon documentaire là aussi, qui était super intéressant. Tiens, histoire de diversifier un peu, je vous suggère une autre série, en fait, pour contrer ce doublon-là, c'est The Devil Next Door, qui est aussi sur Netflix, qui est assez fascinant, ce film-là.
Vu,
c'est un documentaire sur... sur un homme, en fait, un monsieur de Cleveland qui est quand même assez âgé, un John Demjanjuk.
Il s'appelle John.
Oui, il s'appelle John lui aussi. Et puis lui, en fait, on le suspecte d'être Ivan le Terrible, qui était comme le gardien d'une chambre à gaz sur un campement nazi à l'époque de l'Holocauste. Puis ça nous ramène tout un peu dans cette vague. À un certain moment donné, les Américains sont partis à la chasse aux nazis, puis ils ont tenté d'exterminer tous les nazis qui restait. Parce que quand la guerre a terminé, ben, il y en a plein qui ont quitté l'Allemagne, qui ont quitté les pays qu'ils avaient envahis, qui se sont sauvés un peu partout. Il y a même des rumeurs qui disent que Hitler s'était sauvé en République dominicaine, tu sais, ou à Cuba. Donc, il y a plein de conspirations autour de ça. Puis cet homme-là, ce monsieur-là, en fait, a été accusé en fait d'être Ivan le Terrible en 1988. Puis c'est basé sur pas grand chose. C'est basé un peu sur son nom, mais c'est aussi sur une vieille photo qui avait sorti d'un album de membres du corps nazi. Et puis il a été condamné à mort en 1988. Cet homme-là pour être Ivan le Terrible parce que c'est interdit dans le fond d'être un nazi. Oui, c'est ça, c'est interdit d'être Ivan le Terrible. Puis là, ben par cette décision-là a été renversée parce que bon, il y a en raison d'une confusion au niveau des documents, mais par la suite, on a envoyé cet homme-là, le John Demjanjuk, à Israël parce que les Israéliens eux autres aussi ils veulent punir un ancien nazi
parce qu'il y en aurait
exécuté des juifs lui là. Donc ça montre un peu ce système judiciaire qu'on a on en finit plus. C'est-à-dire que si Israël réussisse pas à le condamner, est-ce que la France va dire, ben nous aussi, on les aime pas les nazis, on va essayer de le faire condamner nous aussi, mais on a pas plus de preuves parce que c'est tellement des vieilles histoires. Ben non, c'est basé sur une petite photo noir et blanc, sur des témoignages d'autres gens. Puis le film te met vraiment, pas le film, la série te met vraiment toujours, en fait, t'es toujours ambigu. Là. Est-ce que c'est lui, Yvan Le Terrain? Ben c'est sûr que c'est lui. Il peut pas avoir deux Demianouk qui ressemblent à ça à cette époque-là, qui ont été gardes de chambres à gaz nazis. Puis en même temps, t'as des drôles d'avocats. Les avocats sont des vrais personnages là-dedans. Puis c'est fascinant. Là. Celui qui décide de prendre sa défense, il s'est mis à peu près tous les membres du barreau à dos en faisant ça. Mais tu dis, tout le long de cette série-là, tu dis, est-ce que ce gars-là, c'est vraiment un idiot ou c'est l'homme le plus intelligent dans la pièce, mm-hmm. tu sais? Puis, bon...
un peu comme Evil Genius.
Oui, c'est ça.
Ben oui, donc okay. Ça, je vous le suggère, c'est The Devil Next Door, c'est sur Netflix. C'est une série, je crois, de 4 épisodes, donc c'est pas si long, je veux pas vous dire n'importe quoi, là. C'est 5 épisodes. Non, c'est sorti, je crois, là, automne 2019. Sinon, une autre suggestion, ma deuxième, encore un doublon, ma chère Simone, de Jinx, c'était mais vraiment dans mes top documentaires, mais tiens, je vous en suggère un autre pour compenser, c'est Shadow of Truth, qui est aussi sur Netflix, qui est un documentaire fantastique. C'est un documentaire israélien, en fait, qui retrace la mort d'une jeune fille, en fait, qui est décédée, Tahir Rada, en fait, 13 ans, qui est décédée en Israël, qui a été retrouvée dans la salle de bain de son école. Et puis là, il y a tout de suite quelqu'un, un immigrant, en fait, qui est accusé. Et puis on se rend compte que, ben en fait, c'est peut-être pas clair que c'est lui, là, parce qu'il y a d'autres potins à l'école de Tahir où les jeunes racontent d'autres histoires. Il y a un peu une genre de conspiration aussi autour de ça, okay. sur qui est-ce qui aurait tué cette jeune fille-là. C'est une super série documentaire, vraiment, qui ressort pas dans les gros, là, comme Making a Murderer et tout mm-hmm. ça, ouais. mais qui est aussi bien, sinon mieux réalisé encore. Il y a vraiment une facture cinématographique à ce documentaire-là. Il me semble une super bonne musique, et puis ça tente de faire la lumière justement sur toute cette histoire-là. Il y a aussi un homme que complètement inattendu à la fin qui va justement raconter que peut-être que son ex-petite amie aurait confessé le meurtre de Tahir Rada. Donc vraiment, on sait plus où donner de la tête, on regarde dans tous les sens pour tenter de voir qui est-ce qui a tué cette jeune fille de 13 ans-là. Il y a que 4 épisodes, donc c'est quand même assez synthétisé. Le premier s'attarde un peu une version de l'histoire, le deuxième a une autre version, 3 et 4, un peu de la même façon. Donc je vous le suggère fortement. C'est un documentaire israélien aussi, c'est le fun de regarder des choses qui sont pas produites par Hollywood. Ouais. Donc ça amène une autre personnalité là, à la série. Je vous le suggère, c'est sur Netflix encore parce que ça a été carrément acheté par Netflix, ces séries-là.
Ah ben cool, merci Émile. Ah ben non, il t'en reste encore une.
Il m'en reste un. Le dernier, ben écoutez, ça je voulais un peu saluer le travail de Québécois aussi,
ben
parce
qu'il
commence à en avoir. J'ai mis Le Dernier Soir, en fait, dans cette liste-là. Ça date de 2019. C'est un documentaire qui est sur Tout TV, qui était une exclusivité. J'ai l'impression que ça va arriver à la télé.
Ah, il est là.
Il est déjà à la télé.
Il est diffusé, là.
Ben c'est une série documentaire. On n'en fait pas tant que ça, des séries documentaires True Crime au Québec, mais c'est sans doute une qui a été le mieux fait. En fait, ce documentaire-là, Le Dernier Soir, s'interroge au sujet de la mort de Mario et Diane, donc deux jeunes ados là, âgés de 13 et 15 ans à l'époque, qui ont été assassinés alors qu'ils faisaient une balade en moto là, en campagne. Donc, très bizarre, ils sont partis faire... Mario avait reçu une moto en cadeau, et puis il allait faire des tours avec différentes personnes, ses amis, il les embarquait en arrière, il allait faire un tour un peu sur la ferme, dans les champs et tout ça. Puis à un certain moment, ben, il embarque Diane, qui est une jeune fille de son village. Ils s'en vont faire leur tour de moto. Il est à peu près 5-6 heures du soir, fin de journée, et puis ils reviennent jamais. Et on les trouve criblés de balles. En fait, le jeune homme aurait reçu 6 balles quand même, et Diane en aurait reçu 2. Ouais. Dans les deux cas, les blessures par balles sont mortelles. Mais là, il y a personne qui en voulait à ces deux enfants-là.
Non, exact.
Pour quelles raisons ils se sont fait assassiner? Est-ce qu'ils ont été témoins de quelque chose? Est-ce qu'il y a des groupes de motards criminalisés qui seraient liés à ça? Est-ce qu'ils sont tombés sur un champ de cannabis? Je dis n'importe quoi. Ouais. À l'époque, c'était illégal en 75. Donc, est-ce que vraiment ils ont vu quelque chose ou est-ce que c'est une histoire de jalousie entre adolescents aussi? Mais comment on peut en venir à assassiner ses collègues de classe? Bref, une histoire assez passionnante. C'est Monique Néron, en fait, qui est journaliste, qui mène l'enquête là, avec un groupe d'experts. C'est foutument bien fait, bien réalisé, bonne musique aussi. C'est sans doute une des meilleures séries télé, le True Crime, qu'on peut binger entièrement là sur tout.tv.
Très touchant. Moi, ça m'avait beaucoup touché, le témoignage des parents de Mario et Diane, l'entourage, la famille.
Ouais.
Puis l'histoire aussi, parce qu'on n'a pas de... Ils n'ont toujours pas de réponse. Hein, ils ont un suspect en tête, mais la famille, ils ont toujours pas le motif en tant que tel. Parce que je pense que c'est Mario, c'est à bout portant, les balles, du moins dans son torse.
Oui.
Fait que c'est pas... Parce que souvent, il disait que c'était peut-être un accident de chasse, mais ça a été... Ça a été tassé assez rapidement. Tu fais pas d'accident de chasse en tirant.
Ben oui, 6 balles de 22, là.
C'est ça. Ah non, c'est vraiment bon. Non, moi aussi, j'étais fier des Québécois d'avoir fait une belle série comme ça.
Ben, ça conclut nos top 3. Ben, c'est cool parce qu'on a, je pense qu'on est sorti un peu des sentiers battus,
ouais,
là.
Vraiment.
On est sorti un peu des grands classiques.
Des Making a Murderer.
Oui,
Staircase.
Oui, exactement. Qui sont aussi passionnants,
ah, ben
là.
Oui,
personnellement, Making a Murderer, j'ai beaucoup aimé la première saison. J'ai beaucoup moins aimé la deuxième. Mm-hmm. J'ai l'impression que tout avait été dit. The Staircase, j'ai trouvé très intéressant
aussi.
Ah, oh, The Staircase. Si je pouvais savoir.
Ah,
la vérité sur
ce
truc-là.
C'est le hibou.
C'est le hibou.
C'est clair, nous, on est à Distorsion, on est team hibou. Mais sinon, est-ce qu'il y a des choses que vous surveillez qui vont sortir éventuellement?
Il y a le truc de Ted Bundy que je vous ai parlé tout à l'heure, sinon...
Il y a un truc qui va sortir sur Netflix en mars qui s'appelle Lost Girls. Puis, j'avais lu le livre, c'est dans le fond, c'est des cas qui sont pas résolus. Ça s'est passé à Long Island en 2010, puis c'est plein de jeunes travailleuses du sexe, dans le fond, qui ont été assassinées. Puis, ce qui est fou de cette histoire-là, c'est que il y a plein de jeunes femmes qui ont été portées disparues un peu en même temps. Puis, il y en a une qui s'appelait... Comment qu'elle s'appelait? Donnez-moi 30 secondes. Shannon. Elle s'appelait Shannon. Puis, la mère de Shannon, quand sa fille est disparue, elle a vraiment poussé pour que les policiers portent attention à ça parce que, comme, tu sais, on s'entend, là, malheureusement, quand c'est quelqu'un qui est une travailleuse du sexe, travailleuse de la rue, il y a moins d'attention qui est portée là-dessus.
Ouais,
elle a mis beaucoup de pression. C'est parce qu'elle a mis beaucoup de pression qu'ils ont découvert 4 corps en même temps dans un même endroit, une genre de proche d'une plage à Long Island. Puis c'est là qu'ils ont découvert une dizaine, puis ils ont réalisé que c'était un tueur en série. Mais ce qui est fou, c'est que Shannon n'a pas rapport à ce tueur en série-là. C'est juste comme l'élément déclencheur qui a fait découvrir
ça.
Mais bref, c'est un film qui va sortir sur Netflix en mars. Que c'est ça, c'était un livre de Robert... C'est quoi son petit nom? Robert Colker. C'est genre un livre que t'achètes dans un aéroport. Hein?
Oui, oui, oui.
Mais si je l'avais lu, j'aurais trouvé ça bon, puis je savais pas qu'il allait l'adapter, mais ouais. Puis aussi, c'est pas quelque chose que j'attends, là, c'est récent, là, mais le documentaire sur Aaron Hernandez sur Netflix.
Oui. Je l'ai presque terminé.
J'ai juste de le finir, puis c'est vraiment... c'est frustrant parce que t'as pas vraiment une réponse claire à la fin. Je connaissais vraiment pas l'histoire.
Non, moi non plus.
Vraiment pas.
Je trouve qu'il y a trop de football, là, mais sinon, je trouve bon, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a des longueurs, personnellement.
Mais c'est vraiment frustrant parce que c'est comme... Pendant un bout, t'es genre, mais voyons donc, c'est évident que c'est lui qui l'a fait. Puis après, il essaie de comme twister ça en disant que c'est peut-être à cause de ses commotions cérébrales.
Oui,
puis t'es comme, mais c'est pas une excuse. En tout cas, c'est une montagne russe d'émotions.
Oui, ben ça, j'avais aimé ça parce que justement, il ramène. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de joueurs de football dans cette période-là qui se sont suicidés à cause des commotions. Puis souvent, ils se tiraient dans le chest et non le cerveau pour que leur cerveau puisse être étudié.
Ouais.
Être étudié parce qu'il y a, des vrais impacts. C'est sûr que c'est lui.
Ben oui.
Avec toutes les preuves qui nous montrent. Mais non, c'est quand même bien fait. Là. Puis les fans de football vont aimer. Tous ceux que j'ai connus qui aiment le football parce qu'ils vont loin quand même là-dedans.
Là. Oui, j'ai jamais vu mon chum aussi excité que quand on a vu que c'était à
du true crime football.
Ben oui, très content.
Moi, il y a un truc que j'ai hâte de voir, mais on n'a pas vraiment de date. C'est King of the Jungle, en fait.
C'est quoi?
C'est le film sur John McAfee. avec Zac Efron qui va sortir. Donc, il y avait déjà eu un film produit en 2016, là, de Dangerous Life of John McAfee, qui est un documentaire qui retrace la vie très tumultueuse de John McAfee, bon créateur de l'antivirus très populaire, mais par la suite, il a été impliqué dans une histoire de trafic sexuel, dans une histoire de meurtre de son voisin, puis depuis un an, il est fugitif, il est en cavale sur son bateau avec sa femme, bon, avec ses armes, sa drogue et tout ça, donc c'est vraiment sa vie est encore plus incroyable que la fiction, là. Donc ça va être difficile de faire un film sur lui.
Zac Efron.
Oui, Zac Efron qui va être là-dedans. Il remplace Seth Rogen en fait qui devait jouer le rôle. C'est aussi des gens qui ont travaillé sur American Crime Story qui vont travailler là-dessus. Cependant, on n'a pas encore de date de sortie, là, mais on sait que ça va être une comédie. Donc on dirait que c'est un peu ce qui me fait peur aussi, parce que en fait on va suivre un journaliste de Wired qui part à la rencontre de John McAfee pour l'interviewer. Okay. C'est produit aussi par Condé Nast Entertainment, donc il y a un lien avec Wired, qui possède Wired. Et puis, donc c'est ça. Étant donné que ça va être une comédie un peu satirique, je me demande un peu si, justement, ça va être passionnant pour des amateurs de true crime comme nous, mais chose certaine, par curiosité, c'est sûr que j'ai hâte de voir ça.
Ah non, c'est sûr que oui. Est-ce qu'on sait c'est quelle période de sa vie ou
Personnellement, je ne sais pas c'est quelle période de sa vie, mais tout est arrivé dans quand même délais assez courts.
C'est vrai, effectivement.
Entre sa disparition au Belize, puis la vente de l'antivirus, puis le meurtre, puis tout ça, là, c'est dans les 20 dernières années.
Oui, non, ça c'est clair, Ah, ben c'est cool, ça.
Ben oui. Donc, j'espère qu'on vous a donné des bonnes idées de contenu à regarder, les distordus. Et puis, Simone, merci beaucoup de ton temps.
Merci à vous. J'étais très contente de faire ça, parler de ma passion pour le true crime.
Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux?
Je suis sur les réseaux, mais t'es pas vraiment active. Simone FB, comme Facebook, mais c'est pas ça. Sinon, c'est ça. Je crée du contenu pour d'autres personnes que moi-même. Mais sur le site de Billy, si vous êtes des jeunes adolescentes.
Ben oui,
on vous salue.
Yes. Eh bien, merci beaucoup, Simone. Merci, Seb.
Merci à toi, Émile. Merci à Simone aussi.
Yes. Et on se reparle bientôt.
Bye.
Bye-bye.